maintenant, les 5 minutes sont passées. Alors, rebonjour à chacun, chacune d'entre vous. Bienvenue pour cette troisième journée du Festival Raison d'Agir, qui donc va commencer cet après-midi avec une table ronde intitulée « L'éternel retour ?» Point d'interrogation. Alors, pour cette table ronde, nous avons la grande chance de recevoir trois chercheurs. Et puis je vais les présenter par ordre d'intervention. Alors, trois sur le programme, il y a quatre intervenants. Éric Marlière n'a pas pu nous rejoindre voilà, pour des questions familiales. Je vais présenter donc les intervenants par leur ordre de passage. Nous écouterons d'abord Rémi Lenoir, professeur émérite à l'Université de Paris 1, pour une intervention qui s'intitule « Néofamilialisme et libéralisme économique ». Puis Julien Bauger, postdoctorant en sciences politiques, pour une intervention qui s'intitule « Ordre national, ordre laïque, la question du voile dans les lieux neutres ». Et enfin, nous terminerons avec l'intervention de Juliette Rennes, maîtresse de conférence à l'EHESS, qui s'intitule « Femmes, étrangers, couples de même sexe, les arguments contre l'égalité des droits de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle ». 21e. Bien sûr. Voilà, chacun des intervenants aura 15-20 minutes pour la communication. Et puis, après ces trois communications, on prendra, comme il se doit, un temps d'échange avec vous. Voilà, je laisse la place à Rémi Lenoir.
Voilà, ça marche ? Oui, bon. Oui, donc on a 20 minutes. Bon, ben, j'avais préparé une intervention pour au moins le double, donc je vais essayer de me dégager de mes papiers. Bon, l'intitulé de la conférence, de l'intervention, c'est néofamilialisme et libéralisme économique. Bon, j'ai donné cet intitulé il y a quelque temps et dans un moment un peu de divagation intellectuelle, et je pense pas que je pourrais complètement mettre en relation, vous voyez, ces deux acteurs historiques. Bon, la question que je me suis posée et qui a conduit donc à la formulation de ce titre, c'est à propos donc des mobilisations de la droite, hein, pour aller vite, concernant la famille, c'était la question, bon, pourquoi la droite se mobilise-t-elle dans la rue, qui plus est, parce que c'est pas son lieu privilégié de mobilisation. Je crois que vous avez entendu les pinsons hier, et bon, on sait que les classes dominantes, enfin les différentes factions des classes dominantes sont toujours à l'état mobilisé, mais disons que ce soit dans leur activité professionnelle ou dans leur lieu de sociabilité, c'est une mobilisation quasi permanente en vue de défendre leurs intérêts. Alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ils manifestent dans la rue ? La rue, oui, la rue qui est un lieu de perdition, enfin, disons, pour les membres de ces catégories-là, et ce n'est pas leur lieu, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait que, de temps en temps, la droite se mobilise ? Alors, je crois que, bon, c'est pas très compliqué, c'est la peur de la gauche, mais il faut encore se demander qu'est-ce qu'incarne la gauche pour faire si peur, aux partis de droite. Bon, si on regarde, enfin, les manifs de droite, il y a un livre qui vient de sortir de Daniel Tartakovsky sur ce thème, et auquel je vous renvoie, hein, pour l'histoire de ces mouvements. Elle se mobilise rarement dans la rue, mais quand elle se mobilise, c'est avec des moyens assez importants. Alors, qu'est-ce qui mobilise la droite ? Et c'est vrai que presque toujours, les mobilisations de la droite dans la rue, encore une fois, se font à propos soit d'un risque de renversement politique, ou plus exactement la crainte que la droite peut avoir. Je pense notamment aux manifestations d'entre les deux guerres, hein, les manifestations de 34, etc. Soit, et plus fréquemment, lorsque la législation en matière familiale se modifie. Et l'exemple, je dirais, typique, enfin, est quasiment fondateur, si vous voulez, de ce phénomène, ce sont des mobilisations qui ont eu lieu au début du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe siècle, pour défendre la famille que les partis de droite de l'époque, ou les partis ultra, enfin bon, pouvaient, enfin, craignaient. Et c'est ça que j'aimerais, c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La thèse. C'est que ce qui est en question à propos de la famille pour ces catégories-là, c'est le mode de reproduction de la structure sociale qu'elles maîtrisent, enfin, dont elles ont, enfin, sur lequel la droite a une réelle emprise, puisque c'est elle qui exerce le pouvoir presque dans tous les secteurs d'activité. Et il suffit qu'un de ces secteurs soit pris par la gauche, le secteur politique, enfin oui, l'activité, le champ politique, comme on dit, pour qu'immédiatement il y ait une réaction très forte. Alors ces réactions très fortes, on les a vues par exemple en 1984 à propos de l'école libre. Et puis, alors, comme exemple, à propos de l'école libre, c'est les manifestations de 84, à propos de la menace d'un renversement d'un régime politique, c'est la manifestation du 30 mai 68, hein, pour aller vite. J'envoie juste des éclairages. Alors, pourquoi la famille et quelle famille ? Première idée, la gauche n'est pas absente, hein, des luttes concernant la famille, mais ce n'est pas la même famille. Ce dont il est question à propos de la famille, ce sont, aussi bien pour les partis de droite que pour les partis de gauche, les conditions d'existence des familles en difficulté matérielle ou en mal de reconnaissance, hein, en mal de reconnaissance symbolique. Donc ce sont les conditions matérielles les conditions d'existence matérielle et les conditions d'existence symbolique. Pour la gauche, c'est ça. Alors, il y a une lutte effectivement pour les conditions d'existence matérielle des familles populaires. Hein, c'est les luttes pour les allocations familiales, pour le logement social, pour les équipements scolaires, les équipements paramilitaires, j'allais dire, parascolaires, pardon. bien. Pour les conditions d'existence symbolique, c'est la reconnaissance des unions et de ce que ces unions peuvent engendrer. Et ça donne les mouvements féministes, enfin, des années 60-70. Hein, et ça donne famille homoparentale, enfin, etc. Mais on pourrait remonter plus loin. Par exemple, l'égalité au regard des successions, l'égalité des enfants naturels et légitimes au regard des successions, etc. Bon. Et puis, en ce qui concerne les conditions d'existence symbolique, c'est évidemment la lutte, les luttes des mouvements des homosexuels en vue de la reconnaissance, de la légitimation de leurs unions. Ça a donné lieu donc au Pax en 1999 et donc au mariage en 2013. Bien. Alors, voilà pour la gauche. Je vais vite. Hein, c'est simplement pour souligner que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Hein. La droite, la famille a toujours été l'affaire de la droite, si je puis dire. Hein. C'est une affaire de famille, si je puis dire, de la droite. Hein. Au point où la droite a toujours prétendu avoir le monopole, hein, de la définition de ce qu'est une famille ou de ce que n'est pas une famille. Sa composition, son fonctionnement, Et le modèle de référence, plus ou moins conscient, c'est quand même la famille dite traditionnelle, malgré les aménagements qui ont eu lieu ces derniers temps. Mais grosso modo, c'est la famille traditionnelle, c'est-à-dire patrimoniale. Et le mot patrimonial, pour moi, est fondamental. Et c'est ça qui rattache, si vous voulez, les luttes pour un certain type de famille à ce qu'on appelle le libéralisme ou le néolibéralisme. Voilà. Alors pourquoi la famille a toujours été l'affaire de la droite, hein, bon. Même si, encore une fois, la gauche n'a pas été absente de ces luttes, et je vous en ai rappelé quelques-unes. Alors, je crois que la perspective historique, et je voulais donc m'étendre un petit peu là-dessus, mais je vais laisser tomber, aurait permis de mieux voir ce qui se joue dans le présent. En un mot, la thèse que je voudrais défendre, enfin que j'aurais voulu défendre, c'est que la défense de la famille, c'est le mode d'expression publique, la manière d'exprimer publiquement que la droite a pour défendre ses intérêts de classe. Hein, bon. La famille, c'est la classe, du point de vue de la droite. C'est en tout cas le mode d'expression publique par lequel la droite, par lequel la classe dominante manifeste, c'est-à-dire rend public, ses intérêts de classe lorsqu'elle se sent menacée. Hein, alors ça, on le voit très bien au début du XXe siècle, avec la naissance de ce qu'on appelle le familialisme. Familialisme, ça veut dire défense de la famille, défense en tant que telle, si vous voulez, de la famille. Alors là, il s'agissait vraiment de la famille traditionnelle, hein, patriarcale, qui était peu à peu menacée par des réformes juridiques. Pensez par exemple 1884, le droit de divorce, voyez, qui avait été, qui était interdit depuis le Premier Empire. Voilà. Je ne peux pas développer, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces luttes, il y a un acteur très important qui est directement concerné, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique, si je le rappelle, c'est parce que, en général, c'est elle qui assure la logistique de ces grandes manifestations de défense de l'école libre, là où elle est directement atteinte, mais également de la famille, de la famille dite traditionnelle. C'est pas la peine que je développe tout ça. Et alors, l'Église catholique est toujours pas partie prenante de ces luttes parce qu'elle a détenu depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, mais sans doute bien avant, mais ça j'avoue que j'ai pas fait de recherche sur ce point, entre le 5e siècle et le 10e siècle, 10e, 11e siècle. Mais enfin, grosso modo, l'Église catholique a toujours exercé une magistrature morale, hein, et avait même le monopole de cette magistrature morale concernant la famille. Hein, bon. Il ne s'agit pas de douter que l'Église d'aujourd'hui, en tout cas, défend des intérêts moraux, qui peuvent être aussi des intérêts économiques, mais qui sont avant tout des intérêts moraux. Et ce qui rend d'autant plus service, à des acteurs qui, eux, vont défendre non pas tant des intérêts moraux en tant que tels, mais des intérêts économiques sous couvert de ces intérêts moraux, compte tenu que l'Église catholique est là pour garantir la haute valeur morale de ce type de combat qui a des conséquences économiques sur lesquelles je vais insister très vite. Vous le savez tous peut-être que les classes supérieures, qui ne sont pas toujours celles qui manifestent. Un des problèmes qui s'est posé pour moi, c'est que j'ai assisté aux manifestations à Paris de la Manif pour tous. Ce qui est très étrange, c'est que d'abord, elles étaient de composition très différente une fois sur l'autre. comment dire, c'était pas nécessairement les représentants les plus, comment dire, les plus typiques des classes supérieures. C'était pas Madame L'Oréal, j'allais dire Madame Bettencourt, qui défilait. Vous imaginez bien. Bon, c'est bon, il faut toujours, vous voyez, distinguer les propriétés des manifestants que malheureusement nous n'avons pas, et les propriétés, vous voyez, des intérêts, enfin de ceux qui défendent leurs intérêts par manifestation interposée. Hein. Donc, je vais un peu vite, j'aurais pu développer ce point, mais je n'ai pas le temps. Mais ce qui est important, c'est de voir que la famille, aujourd'hui, n'a jamais été aussi importante dans la transmission des deux espèces, enfin, que nous appelons... deux espèces de capital, c'est-à-dire deux espèces de propriété, dans tous les sens du terme d'ailleurs, de propriété, qui permettent, vous voyez, d'accéder au pouvoir, au champ du pouvoir, à cette instance, pour parler vite et peut-être avec des termes inconvenants, mais vous voyez, à cet univers, à l'univers du pouvoir qui est fondamentalement parisien et qui réunit les gens les plus élevés, enfin, qui ont les propriétés les plus élevées dans les différents secteurs d'activité, que ce soit le secteur d'activité économique, que ce soit le secteur d'activité philanthropique, sportif même. Bon, enfin bref, vous voyez, culturel, bien entendu. Bon, bref, j'insiste pas. Je pense que c'est des choses que, bon, qui sont pas toujours faciles à démontrer, mais qui sont assez évidentes d'une certaine manière. Hein. Donc, aujourd'hui, la famille n'est jamais aussi importante à ce propos. Hein. Donc, à propos de la reproduction, hein, de ce qu'on appelle, enfin, c'est une expression un peu peut-être compliquée pour dire des choses peut-être plus simples, qu'on peut dire plus simplement, reproduction de la structure de classe, reproduction de la structure de la classe dominante, reproduction, en tout cas, de ceux qui nous dominent. Hein. Alors c'est vrai sur un plan économique. Alors là, je fais référence au livre de Thomas Piketty qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où vous trouvez les données vraiment très très très, comment dire, très fines et très suggestives sur ce qu'il appelle sur la concentration, vous voyez, du capital économique, non pas, justement, et c'est ça qui le différencie de ce qui se passait par exemple au XIXe siècle, qui se concentre, qui est moins concentré, si vous voulez, qu'au XIXe siècle. Hein, les deux sont famille, hein, pour aller vite. Bon, c'est évidemment une métaphore, mais enfin, ça exprime au moins le fait qu'il y avait des familles très, très, très riches, bon, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Les familles les plus riches aujourd'hui sont encore moins riches que les familles les plus riches au XIXe. Hein. Et donc, Piketty dit, on assiste à une concentration donc, du capital, dans près de 40% des ménages, alors qu'au XIXe siècle, c'est plutôt autour de 10%, je crois. J'ai oublié, mais c'est des ordres de grandeur. Et il parle à ce propos de classe moyenne patrimoniale. Bon, c'est une belle expression. Il y a des enjeux dans la transmission. Il y a des enjeux dans la transmission du capital par le biais, hein, des structures familiales. Hein. Bon. Enjeux qui n'ont jamais été aussi importants et qui n'ont jamais autant concerné de familles. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, la famille est un enjeu économique et un enjeu économique, comment dire, fondamental. La famille reste un instrument fondamental de la reproduction de la classe dominante, hein, pour aller vite. Et ceci est vrai pour le capital économique, mais c'est vrai aussi pour le capital culturel, hein, qui s'est constitué au XIXe siècle, qui s'est autonomisé avec l'obligation scolaire, la généralisation de la fréquentation de l'école et le recours à l'école qu'on fait les catégories dominantes pour accéder au poste de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique. Et aujourd'hui, vous le savez sans doute, jamais la sélection dans ce qu'on appelle les grandes écoles, et plus exactement les grandes écoles qui mènent au pouvoir, il n'y en a pas 50, il y en a 3. C'est quoi ? C'est HEC, c'est l'ENA, et c'est Polytechnique. Par exemple, l'école normale supérieure est hors course maintenant pour ça, quasiment. Sauf pour écrire des discours, oui, pour ceux qui détiennent le pouvoir, etc. Bon, pour quelques normaliens, on en trouve toujours, on en trouvera toujours. Mais grosso modo, voilà les 3 écoles. Eh bien, ces 3 écoles, les dernières enquêtes montrent que elles n'ont jamais été aussi sélectives qu'avant. Donc, la droite contrôle les voies d'accès aux positions de pouvoir, que ce soit par la transmission du pouvoir économique ou que ce soit par la transmission du capital culturel. Donc, l'héritage, et c'est ça qui est en cause quand on parle de famille. Cela dit, c'est intéressant, c'est qu'on n'en parle jamais, en tout cas publiquement. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas en famille, mais en tout cas publiquement, on n'en parle pas. C'est presque... vous le savez aussi bien que moi, c'est presque inconvenant. Voilà. Donc, voilà en tout cas ce que je voulais vous démontrer. En ce qui concerne les manifestations proprement dites, elles ne sont pas le fait, si vous voulez, nécessairement des membres de ces classes moyennes patrimoniales. Elle est composée de qui, cette classe moyenne patrimoniale ? Principalement de cadres supérieurs, vraiment supérieurs, de professions libérales, de chefs d'entreprise et de commerçants d'une certaine importance. Il n'y a plus de rentiers, comme c'était le cas au XIXe siècle. Quelques grands agriculteurs exploitants. Donc, elles contrôlent les voies d'accès au pouvoir, mais elles sont assistées par l'Église catholique qui, je le rappelle quand même, parce qu'on parle toujours du déclin de l'Église, de la croyance et tout ce qu'on veut, l'Église catholique, j'ai regardé les chiffres sur le site de l'association qui réunit toutes les écoles catholiques, etc., à savoir l'UNAPEL, peut-être que ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous. Dans l'enseignement secondaire, les écoles catholiques regroupe 2 millions d'élèves quand même. 140 000 enseignants. Oui, c'est pas les effectifs du Parti communiste. C'est quand même c'est pas n'importe. J'ai pas regardé les mouvements scouts. Non, je vous parle de ça parce que ce sont ces gens-là qui marchaient dans la rue. Vous voyez, c'était pas Donc l'Église catholique a joué un très grand rôle dans la mobilisation et l'organisation de ces manifestations, en défendant, évidemment, son précaré éducatif, ses intérêts d'école, mais en défendant ses intérêts d'école, elle défendait les intérêts d'une certaine catégorie sociale, tout en ne manifestant pas ces intérêts économiques qui sont au fondement de la famille qu'on peut appeler bourgeoise. Je ne vois pas pourquoi on s'empêcherait de le faire aujourd'hui, surtout aujourd'hui d'ailleurs. Alors, je finis là-dessus, il me reste 2 minutes, excusez-moi. Le débat aujourd'hui porte essentiellement, le débat à propos de la famille porte essentiellement sur la filiation. On parle de filiation, on parle de PMA, de GPA, vous savez tout ça, vous avez tous lu ces trucs-là. Et c'est des trucs qui font vraiment vibrer le cœur de beaucoup de gens. Mais Qu'est-ce que c'est que la filiation ? Et quel est l'enjeu de la filiation dans une société comme la nôtre ? Je ne dis pas que c'est la même chose dans les sociétés segmentaires, enfin, dites archaïques, etc. En fait, la filiation, c'est la succession. Hein. Qui a droit de succéder ? Bon, je n'insiste pas. Bon, ça a été la naissance, par exemple, du temps de la noblesse. Bon, et du temps de la bourgeoisie, c'est aussi la naissance. Et là, si ces nouvelles formes de procréation font tant fantasmer, hein, c'est parce qu'elles mettent pas en cause la filiation dite biologique, hein, mais elles la concurrencent. Elle peut concurrencer ce mode de filiation, c'est-à-dire en définitive ce mode de succession par lequel la classe dominante se reproduit biologiquement et socialement. Donc, ce qui est en question, c'est pas tellement le mariage. C'est pour ça que ça a été, vous voyez, c'est quasiment accepté, quoi. Bon, tout le monde s'en fout, d'ailleurs. À commencer peut-être par... Bon, non, je veux pas dire ça, mais enfin, bon, bref. Non, le véritable enjeu, vous voyez, des luttes pour la famille, c'est vraiment, vous voyez, c'est ce problème de la succession. Et alors ça, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on n'en parle jamais en tant que tel. Vous voyez, c'est les problèmes... Alors, il me semble que l'enjeu symbolique, vous voyez, l'enjeu de ces luttes, pour aller vite, hein, c'était de naturaliser, comme on dit, hein, filiation naturelle. Hein, bon, dans la droite, le mot nature est toujours à des significations différentes, hein, selon les intérêts. C'est dans la logique des choses sociales, hein, que ça se passe ainsi. Elle a contesté les familles dites naturelles, mais par contre, elle fait l'éloge des familles, elle fait l'éloge de la filiation naturelle contre tout autre mode de filiation, filiation évidemment artificielle. Alors quand cet artifice se peint de la science, enfin, vous voyez, de la biologie, disons, scientifique, c'est l'horreur multipliée par deux. Bon, voilà, et je finis ma conclusion. Bon, on voit les enjeux économiques. Hein. On peut rappeler les enjeux symboliques. Pour les mouvements féministes ou pour, enfin plus exactement pour les mouvements homosexuels qui étaient plus directement concernés par les réformes récentes, c'est-à-dire la reconnaissance, la légitimité, hein, on parle de famille légitime, hein, c'est pas par hasard, hein, bon, donc l'identité sociale, c'était un combat, bon, simplement. Je crois qu'il ne faut pas le négliger non plus pour ceux qui ont des intérêts matériels à défendre, des intérêts, disons, patrimoniaux, comme on dit. Hein, parce que, avoir une famille dans sa définition légitime, hein, c'est un privilège. Hein, c'est un privilège parce que tout le monde n'a pas les moyens, hein, d'avoir la famille, vous voyez, telle qu'elle est fabriquée par la législation. Le type de famille normale, vous voyez, légitime, etc., c'est, et ça reste, qu'on le veuille ou non, même si le droit est passé par là, c'est-à-dire la légalité, mais pas la légitimité pour autant, bah, c'est être hétérosexuel, hein, comme on dit aujourd'hui, avoir un certain revenu, avoir un logement, avoir pas trop d'enfants, et des enfants qui sont bien élevés. Voilà. Bon. Bah, ces conditions-là ne sont pas réunies dans toutes les catégories sociales. Hein. Donc, se battre pour conserver le monopole de la définition légitime de la famille légitime, c'est un vrai combat parce que avoir la famille légitime, telle qu'elle est définie encore aujourd'hui, c'est un privilège qui est institué sous toutes les formes possibles. À la fois matériel, hein, avoir un logement, une voiture, enfin bon, bref, et symbolique, hein, être reconnu, un mariage, voilà. Instituer sous toutes les formes possibles un privilège en norme universelle. Hein. Et quand on a une norme universelle, on peut faire la leçon de morale à tout le monde. Hein, voilà. Alors ça, non, je le dis parce que c'était une des choses qui m'irritait le plus, c'était d'entendre les gens en train, enfin, vous voyez, les gens qui manifestaient ou qui, comment dire, soutenaient ces manifestations à la télévision ou à la radio, vous voyez, faire la leçon de morale en disant que eux étaient du bon côté et que tous les autres étaient évidemment du mauvais côté. Alors comment, en plus, vous voyez, vous entendez Monsieur Woerth, enfin, excusez-moi, mais enfin, je ne peux pas m'empêcher quand même de penser à ça, vous voyez, nous faire une leçon de morale sur sa famille et tout. Moi, je ne connais pas du tout ses affaires, mais enfin, au moins public. Publiquement, on sait qu'il a quand même aussi des affaires par ailleurs, et je ne suis pas sûr que ces affaires-là sont très morales. Enfin, vous me direz, ce n'est pas de la morale familiale, c'est de la morale économique ou de la morale politique, et ce sont des choses tout à fait différentes. Mais là où la droite joue double jeu, c'est qu'elle fait de la morale familiale la morale pour toute chose, enfin, au moins pour les autres. Sinon, pour elle. Voilà, excusez-moi, je vous ai dit très vite ce que j'aurais voulu dire plus longuement. Mais voilà, c'était grosso modo ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. Voilà.
Merci. Bon, je pense qu'on aura du temps aussi de discussion après vos interventions. Merci. Donc maintenant, nous écoutons Julien Baugé. Donc j'ai présenté, mais je représente postdoctorant en sciences politiques.
Bonjour. Alors je vais d'une certaine manière continuer la conclusion de Rémi Lenoir, sans le vouloir, mais ça fait bien transition sur la question de la leçon de morale. Alors moi, c'est une leçon de morale laïque que je vais aborder, mais bon, pas très loin. Alors je vais partir d'un constat assez élémentaire, hein, que depuis quelques années, tout particulièrement depuis l'adoption de la loi interdisant le port de signes religieux dits ostensibles à l'école publique, eh bien, depuis ces années tout particulièrement, ce qu'on appelle laïcité est devenu un argument mobilisé à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. D'où la situation apparemment paradoxale, hein, de parler laïcité dans un festival et une session consacrée à la rhétorique réactionnaire. Alors, cette laïcité fut longtemps, vous savez, hein, un mot d'ordre appartenant en propre à la gauche. Cela même alors que le principe de laïcité de l'État était reconnu constitutionnellement, hein, depuis 1946. La République est laïque, hein, dit la Constitution. Alors, c'est qu'il existe des registres différents de signification du terme laïcité. Cela peut ainsi, sans les mentionner tous, cela peut ainsi signifier simplement l'adhésion à la séparation des Églises et de l'État, ce qui fut le ralliement, hein, de la droite, on va dire, à ce principe après-guerre et un peu avant. Bon. Voilà, soit ça, soit on peut aller plus loin, et ça peut renvoyer, hein, à une laïcité anti-religieuse. Et là, ce fut le cas de la deuxième génération des instituteurs laïcs militants, plus socialistes enfin, autant socialistes que républicains, particulièrement hostiles à l'enseignement libre, qu'on disait libre, et au maintien du magistère catholique dans la société française. Donc la laïcité, hein, avec des guillemets, est un objet de lutte entre des agents qui cherchent à imposer le bon sens commun du terme. Et le glissement de la gauche à la droite qui s'est opéré dans les usages de ce mot d'ordre de laïcité constitue un cas particulier de ces luttes symboliques à propos de la définition donc, du terme. Alors ce glissement de la gauche à la droite induit des usages nouveaux du mot d'ordre, puisque, bien entendu, celles et ceux qui en appellent à la laïcité contre les musulmans trop visibles, pas assez assimilés, peuvent tout à fait défendre dans le même temps l'enseignement privé catholique et une morale d'inspiration catholique à l'occasion du mariage pour tous ou de ce qu'ils désignent, ou du débat, ou pour s'opposer, pardon, à ce qu'ils désignent comme la théorie du genre. On pourrait schématiquement dire que le mot d'ordre de laïcité fonctionnait à gauche comme un élément de la critique sociale du monde tel qu'il était, s'en prendre au cléricalisme, à l'Église, c'était aussi vouloir émanciper le peuple à l'égard des valeurs conservatrices des dominants. Le recours à la laïcité aujourd'hui, dans l'espace politique, à droite, mais aussi parfois à gauche, tend au contraire à fonctionner comme un mot d'ordre national, réunissant les Français, entre guillemets, c'est pas un critère juridique ici qui parle, hein, en les distinguant des immigrés et de leurs enfants, et notamment des musulmans. Schématiquement donc, un clivage social dominant-dominé, ou celui, disons, culturel hein, des deux France, hein, la fameuse guerre des deux France. D'armes, à ce clivage social succède un clivage national-étranger. Et toujours schématiquement, d'armes contre les puissants, il s'agissait notamment pour les instituteurs de conquérir une liberté intellectuelle contre une église catholique qui était puissante, hein. La laïcité tend à être utilisée comme un instrument pour stigmatiser et pour contraindre certaines déviances immigrées, là encore je mets des guillemets, donc certaines fractions des classes populaires. Pour rendre compte d'un tel glissement, on est tenté de recourir au schème de la stratégie politique, voire de la manipulation ou de la mystification pure et simple. Ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on peut effectivement identifier des manipulations intentionnelles de cette catégorie de laïcité à des fins politiciennes. L'exemple typique, c'est le grand débat public de 2003-2004 sur le voile, enfin à propos du voile, qui a été voulu et provoqué par certains leaders de droite, je pense notamment à François Baroin, afin de torpiller la gauche, c'est le vocabulaire qui était utilisé à l'époque, hein, il s'agissait d'appauvrir un opposant hein, en lui prenant un de ses mots d'ordre. Et il s'agissait aussi de montrer aux électeurs du Front National que la droite de gouvernement entendait réagir à ce qui est perçu comme des refus de s'intégrer hein, des enfants d'immigrés musulmans. Bon, là, je ne dis pas que les électeurs du Front National votent pour cette raison pour le Front National, mais disons que c'est ainsi que c'était perçu par les gens de droite hein, qui se sont vus dépasser au premier tour de 2002 par Jean-Marie Le Pen, etc. Alors donc, il y a des formes de manipulation intentionnelle, hein, des stratégies politiques. Cependant, sans être nécessaire, le succès de ce type de stratégie n'est pas purement arbitraire. Il tient aussi au monde social tel qu'il est effectivement organisé, hein, et aux dispositions des agents sociaux, et notamment à ceux qui sont qui appartiennent au champ politique ou au champ bureaucratique, hein, à la haute administration. Ainsi, pour ce qui va nous occuper ici, il tient à l'histoire même de ce déplacement, hein, de cette réinvention de la catégorie de laïcité en catégorie d'action publique, en injonction à l'intégration. En somme, on peut dire que ça transforme l'espace des possibles, hein, et ce qui autorise Baroin à une telle stratégie de dire on va défendre la laïcité alors qu'on a un gouvernement de droite qui vient d'être élu, ça paraît pas farfelu parce qu'il y a eu l'histoire que je vais essayer de vous raconter. Donc je voudrais ici brièvement faire quelques hypothèses sur ce déplacement à partir d'un point de vue particulier, les débats publics sur le voile que j'ai un peu étudié dans ma thèse. Donc c'est un point de vue incomplet, mais bon, c'est un point de vue quand même qui me semble comment dire, intéressant. Bon. Alors pour étudier ce déplacement, je vais distinguer trois moments, trois étapes dans l'histoire de ce déplacement. La première affaire de foulard de 1989, ensuite le travail, l'activité du Haut Conseil à l'intégration dans les années 90, et enfin la commission Stasi, dite Stasi, réunie en 2003. Alors, il me semble en effet que ce déplacement, ce glissement, doit beaucoup, d'une part, à la question du voile à l'école, parce qu'elle rassemble largement dans l'opinion contre le voile, sinon contre l'exclusion des élèves concernés. Elle permet donc la production sondagière, donc par les sondages d'opinion, la production médiatique d'une opinion publique massive sur une base nationale hein, contre une partie des populations issues de l'immigration. D'autre part, ce déplacement doit beaucoup à des lieux neutres, ce que j'ai appelé des lieux neutres en reprenant une expression employée par Pierre Bourdieu et Luc Boltanski dans un article assez ancien maintenant, donc des lieux neutres comme le Haut Conseil à l'intégration et la commission Stasi. Alors neutres parce que réunissant des fractions différentes des élites sociales, on y trouve des hommes politiques, mais aussi des hauts fonctionnaires, des universitaires, parfois des chefs d'entreprise, des leaders associatifs, etc. Bon. Eh bien, ces lieux neutres ont joué un rôle important dans la neutralisation du mot d'ordre de laïcité, ce qui a été la condition de son entrée dans un patrimoine national qui doit s'imposer en quelque sorte aux derniers arrivés. Voilà. Donc, premier moment de cette histoire, la première affaire de foulard à l'école de 89. Alors, elle constitue une rupture évidente dans la mesure où il apparaît alors clairement aux observateurs que l'islam puisse constituer un obstacle à l'intégration des enfants d'immigrés en France. Bon, 2 ans avant, on avait conclu dans le cadre d'une commission sur la réforme du code de la nationalité l'inverse. On s'était dit, bon, non, l'islam ne sera pas un obstacle. Mais à partir de 89, quand eh bien, 3 collégiennes refusent de retirer leur foulard en salle de classe et que ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de disputes, etc., on finit par conclure l'inverse. Et cette affaire de foulard à l'école appelle donc en quelque sorte l'application de la catégorie de laïcité à la question de l'immigration, ce qui n'allait pas de soi auparavant. Faut bien voir ça. Bon, pourquoi ça l'appelle ? Parce que l'islam apparaît poser problème à l'école républicaine chargée d'intégrer les enfants, et notamment les enfants d'immigrés. Au cours de cette affaire s'opère l'association entre laïcité et intégration des immigrés musulmans dans le langage des acteurs politiques et des intellectuels. Au tout début de l'affaire, il n'est pas question de laïcité dans le vocabulaire des acteurs de droite, au mieux de neutralité. Mais surtout, on parle des règles qui s'imposent et des mœurs qui règnent en France. Et on retrouve le même vocabulaire chez celles et ceux qui, à gauche, refusent la tolérance du gouvernement à l'égard du port du foulard à l'école. Parce qu'à l'époque, le gouvernement Rocard, hein, notamment donc Lionel Jospin, qui est ministre de l'Éducation nationale, dit qu'il faut les accueillir, il faut essayer faut leur demander de le retirer, mais si on n'y arrive pas à les convaincre, il faut les accueillir malgré tout. Alors, un exemple de ce type d'argument qui est mobilisé, à gauche, on a une déclaration du PS qui rappelle que toutes les personnes vivant sur le sol national sont soumises aux lois de la République laïque en France. La secrétaire d'État aux droits des femmes invite les immigrés à respecter les lois et les traditions, la culture du pays d'accueil. Donc on voit cette association qui s'opère entre intégration et laïcité. Alors cette première affaire démontre également la rentabilité politique de cette application de la catégorie de laïcité à la question de l'immigration, puisque le gouvernement et la majorité socialiste se divisent, se disputent publiquement à propos de la bonne position à adopter. Faut-il ou non accueillir les élèves qui portent un foulard ? Alors, ce sont ainsi d'abord des intellectuels de gauche qui vont dénoncer violemment Lionel Jospin et sa politique d'accueil des élèves en foulard, et cela au nom, premièrement, de la défense de la laïcité scolaire. Cette situation rend ainsi possible d'accuser un gouvernement socialiste de ne pas défendre la laïcité, ce qui au début paraît étrange aux acteurs qui le disent, bon, c'est aussi cette histoire. Cette situation permet aussi à droite d'exister dans l'opposition en proposant une autre politique migratoire. Moins d'immigrés, plus d'intégration, pour éviter ce que l'on désigne à l'époque comme la libanisation possible du pays, l'éclatement en communauté. Alors, le gouvernement socialiste va proposer une lecture en termes d'intégration, parce que le terme d'intégration permet de faire de l'affaire du voile une lecture sociale. Il s'agit de créer les conditions économiques et sociales d'une intégration réussie. Et en scolarisant les élèves qui portent un foulard, eh bien, on leur permettra de s'émanciper intellectuellement, et donc elles délaisseront leur foulard. Voilà, ça c'était la posture du gouvernement, enfin le discours. Et en même temps, en parlant d'intégration, avec le flou que cela implique, eh bien, on peut aussi montrer qu'on ne fait nullement preuve de laxisme en matière d'immigration. Et on sait que la droite accuse toujours de laxisme en matière d'immigration le gouvernement de gauche. Donc, sous-entendu, les immigrés doivent s'intégrer. Voilà. Alors, pour conclure sur ce premier point, sur ce premier moment, on assiste donc à l'occasion de cette affaire, à une reproblématisation de la laïcité, en tant que mot d'ordre. Elle n'est plus un instrument de lutte politique et sociale contre le cléricalisme dans l'espace public, par exemple à travers la volonté de faire refluer l'enseignement privé, et au début des années 80, on avait eu cette tentative de la part du gouvernement socialiste, mais donc pour intégrer les immigrés. Et l'enjeu n'est plus, la problématique n'est plus la juste place de l'Église catholique dans la société française ou l'entrée dans la modernité des catholiques, mais l'intégration des musulmans qui importe des mœurs jugées inacceptables. Alors ça, on le voit bien, fin 87, un grand spécialiste du catholicisme et de la laïcité en France, Émile Poulla, publie une synthèse qui s'appelle « Liberté, laïcité, la guerre des deux Frances et le principe de modernité ». Alors, là où on voit qu'il y a une reproblématisation, c'est que cet ouvrage qui pourrait être une espèce de synthèse géniale de quelqu'un qui connaît tout sur le sujet, etc., est très vite en fait vieilli. Le débat politique, en fait, les conditions du débat politique ayant changé, cet ouvrage, d'une certaine manière, paraît parler d'histoire. Quoi. Enfin, c'est une autre époque. Il ne parle pas du tout de ce qui est aujourd'hui la question laïque, c'est-à-dire les musulmans en France, ou l'islam en France. Deuxième moment de cette histoire, donc la création, et qui est la conséquence directe de cette première affaire de Foulard, la création du Haut Conseil à l'intégration, donc, qui suit, en fait, hein, c'est une des mesures du gouvernement Rocard de l'époque pour montrer que le gouvernement agit en faveur de l'intégration. Alors, ce Haut Conseil à l'intégration est chargé de produire des connaissances certaines sur l'immigration par opposition à ce qu'on perçoit comme des mystifications xénophobes, les chiffres qui sont mobilisés à droite ou à l'extrême droite sur les entrées d'immigrés en France. Mais il s'agit aussi pour ce Haut Conseil de faire des propositions en matière d'intégration. Cette création d'un Haut Conseil est une manière de dépolitiser la question du voile, ne plus en faire un enjeu politique, mais un enjeu technique, en la confiant à une arène administrative ad hoc, c'est-à-dire à des experts, en fait, hein, essentiellement des juristes et des hauts fonctionnaires. On ne veut plus qu'on en discute à l'Assemblée, parce que, ou dans l'opinion, parce que ça divise la gauche, on essaye de la dépolitiser. Voilà. Alors, dans le cadre du HCI, la question du voile à l'école est premièrement minimisée. Hein. Ce sont les médias qui en ont fait une affaire. Ça, c'est le discours qui est tenu dans les premiers rapports. Bon, en réalité, cependant, les membres du HCI entérinent le problème public qui a été désigné au cours de cette première affaire de Foulard à travers les thèmes et le contenu des rapports qui paraissent chaque année. La question première, c'est-à-dire à la fois celle qui est traitée en premier et qui occupe le plus de place dans l'ensemble des rapports publiés annuellement depuis 1990, c'est la question de l'intégration de l'islam et des musulmans dans la République laïque. Là, je paraphrase un titre d'un rapport de 2000 du HCI. Sous des angles différents, cette question revient et à plusieurs reprises. Et en effet, c'est parce que la laïcité constitue une dimension fondamentale du modèle français d'intégration qui fait l'objet d'une première définition dans ce premier rapport, dans le premier rapport du HCI, qui s'appelle « Pour un modèle français d'intégration ». Alors, juste quelques remarques là-dessus. Premièrement, les cibles des éventuelles politiques d'intégration ne sont finalement que les immigrés et leurs enfants dans le cadre du HCI, et non l'ensemble des exclus, c'est le mot qui est employé dans un des rapports, comme certains passages donc, de ces premiers rapports semblaient l'annoncer, et ainsi même que la conception sociale de l'intégration du gouvernement Rocard semblait également l'annoncer. Alors, c'est-à-dire, l'idée, c'était on va créer plein de logements dans les quartiers populaires, etc., pour améliorer les conditions de vie, et à la fin, vous allez voir, il n'y aura plus d'intégrisme, il n'y aura plus tout ce que vous voulez. Mais à travers le HCI, on voit bien que non, c'est-à-dire qu'on ne parle plus que des immigrés et de leurs enfants. Bon, par ailleurs, donc, deuxième remarque, mis à part du reste de la population, ils ont et posent des problèmes spécifiques, les immigrés et leurs enfants sont de plus en plus perçus et désignés dans une perspective d'altérité culturelle, on s'interroge sur les conditions culturelles de l'intégration, et dans une perspective d'altérité religieuse. On s'intéresse de la même manière aux effets de la religion musulmane, catholique, confucéenne sur l'intégration des immigrés à la société française. On a donc affaire à ce que l'on désigne parfois comme un processus d'ethnicisation des catégories de l'action publique. Alors, cela dit, il faut bien observer que c'est un processus qu'on pourrait dire objectif. Il ne faut pas prêter, je pense, de mauvaises intentions aux agents qui ont créé le HCI ou aux membres du HCI de l'époque. Pendant plusieurs années, les rapports sont pleins de bonne volonté et d'optimisme quant à l'intégration des immigrés ou de leurs enfants. Ça va se faire, pas de problème. L'islam va se fondre dans la République, etc. Et on a même une définition très libérale, qu'on dit libérale en général de la laïcité, c'est-à-dire celle qui est portée par le Conseil d'État, qui a été portée par le Conseil d'État tout au long du XXe siècle, relativement tolérante. Alors, malgré tout, dans le cadre du HCI, se construit et se voit reconnaître officiellement un modèle d'intégration, je vous l'ai dit, à la française. C'est un des grands enjeux des premiers rapports du HCI. Donc, d'une certaine manière, une certaine représentation de l'ordre national. qui est constitué autour d'un principe de laïcité qui va désormais bien au-delà de la seule séparation des églises et de l'État. Bon, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. En érigeant un ordre, eh ben, on pointe, on identifie aussi des désordres, voilà, des déviances. Et ce travail de construction d'un ordre, d'une représentation d'un ordre national, est la condition d'une traduction ultérieure de cette laïcité en exigences bureaucratiques précises que l'on va imposer, par exemple, aux candidats à la naturalisation ou à ceux qui veulent un titre de séjour d'une certaine durée. Aussi, alors que le HCI, donc, jusqu'en 2000, soutient la position du Conseil d'État dans les affaires de foulard à l'école, c'est-à-dire il faut accueillir, sauf s'il y a atteinte à l'ordre public scolaire, sauf si les élèves manquent à leurs obligations scolaires, sauf si elles font du prosélytisme. Ça, c'était la position qui était celle du Conseil d'État. Donc le HCI, pendant une décennie, soutient cette position, mais en même temps, on peut considérer qu'il participe à rendre possible l'adoption d'une loi... l'adoption d'une loi qui va interdire le port du voile à l'école. Donc j'en arrive à mon ultime partie, 2-3 minutes, ça devrait prendre. Alors, donc ce dernier moment, c'est la commission Stasi, en fait commission sur l'application du principe de laïcité dans la République, qui a été constituée lors du printemps 2003, et qui va être l'instrument par lequel le droit va être changé en matière de voile à l'école. Voilà. Alors là encore, hein, on pourrait dire un cas encore plus exemplaire et médiatique que le HCI. C'est encore un lieu neutre. Hein, on réunit des gens très différents, etc., qui ont des opinions différentes sur la question du voile, bon, et qui vont pondre un rapport et des propositions, et notamment celle d'interdire le voile à l'école. Alors cette commission officialise un nouveau roman national où la laïcité occupe une grande place. Elle a fait la France et elle doit continuer à la faire pour éviter que la communauté nationale éclate. Voilà, ça c'est le vocabulaire qui est utilisé. Ni de droite ni de gauche, hein, la laïcité fait partie donc d'un patrimoine national. Alors c'est la laïcité, je la définis pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contenu flou en fait. On est dans un travail de redéfinition, en cours de redéfinition, et ce qui compte le plus n'est pas tant ce qu'il y a dedans que le fait qu'on l'investisse symboliquement, qu'elle joue le rôle de frontière quoi, entre eux et nous. Voilà, bon. Cette laïcité est neutralisée politiquement cette occasion parce qu'on voit la gauche reconnaître. Que cette laïcité peut être défendue par un gouvernement de droite. Hein, c'est le discours de Jacques Chirac, du gouvernement, etc. C'est celui-là, hein, on défend la laïcité. Et c'est la gauche qui se rallie à ce projet de défense, voilà, cette inversion. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la création de cette commission est alors le meilleur moyen d'encadrer un débat qui est incertain. On ne sait pas si juridiquement on va pouvoir interdire le voile, et on ne sait pas non plus comment va réagir la gauche. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation contre, etc. Donc là, c'est un moyen de dépasser les oppositions possibles. On impose, à travers cette commission qui réunit des gens différents, une problématique, hein, une manière de voir les choses, un problème qui est désigné et reconnu, la laïcité menacée par le communautarisme, et dans le même temps, en reconnaissant un problème, on en oublie un autre. On est aveugle sur un autre, et l'autre en question, hein, ça peut être par exemple le fait que la loi de 1905 n'est pas appliquée partout sur le territoire de la République. Alors, bon, c'est assez intéressant, cette manière de sélectionner. Bon, du coup, je vais vous passer là-dessus. Alors, de façon générale, cette commission a été le lieu d'une subversion donc des catégories bureaucratiques à travers lesquelles le problème du voile était jusqu'alors régulé, donc notamment la jurisprudence du Conseil d'État. Mais de façon générale, elle a été le lieu d'une subversion de la représentation du monde social. C'est en ça que c'est je pense, un moment important. En cette occasion, les hauts fonctionnaires, les syndicats enseignants, les associations antiracistes, les sciences sociales... ont systématiquement été jugés incapables de dire la vérité du monde social. On leur a préféré la parole de témoins de la montée du communautarisme, hein, des enseignants mobilisés contre le voile dans tel ou tel établissement qui a fait la une dans les médias, des enseignants mobilisés contre la montée de l'antisémitisme dans les banlieues, des victimes de l'islamisme en Iran ou en France. Bon, et dans ce cadre, hein, dans le cadre du rapport de la commission Stasi, on voit mobiliser un schème très classique du discours réactionnaire, celui de la pente glissante. Certes, les dérives, hein, disent le rapport, sont peu nombreuses, mais elles sont symboliquement terribles, elles sont inacceptables de ce point de vue, et tout va de mal en pis. Le mal s'étend insidieusement de l'école à l'hôpital, l'entreprise, la rue aussi, puisque le rapport Stasi dit que dans les quartiers populaires, les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles le souhaitent. Enfin bon, il y a tout un discours qui évidemment dramatise tout ça. Voilà, juste. Je peux conclure, ok. Juste pour conclure, trois brèves remarques. En se focalisant sur cette question du voile, comme on le fait depuis de longues années, comme certains essaient de faire, des entrepreneurs, des gens qui se mobilisent pour qu'on parle du voile, hein, et que le moindre voile suscite un débat, on participe à imposer un certain principe de vision, hein, du monde social, de la société, et c'est un principe de vision nationale ou ethnique. Voilà. Or, on sait que, ben, évidemment, ce principe n'est pas favorable à l'amélioration du sort des plus dominés, et on pourrait s'interroger sur les effets de la loi de 2004 sur les filles ou les femmes voilées. Voilà. Deuxième remarque, en transformant en instrument de discipline des immigrés et de leurs enfants le mot d'ordre de laïcité, on contribue à en faire un instrument de pouvoir d'État au service des classes culturellement favorisées qui considèrent avoir raison sur les bonnes manières d'être. Et enfin, une dernière remarque, une ultime remarque, ce déplacement de la laïcité, ce glissement dans les usages, dans l'espace politique au moins, me semble participer à fâcher une partie des musulmans, hein, pratiquants ou non, appartenant massivement aux classes populaires, avec cette laïcité, et d'une certaine manière à rendre moins efficace la critique intellectuelle que l'on pourrait faire d'un certain islam. Voilà. Parce que d'emblée, la critique intellectuelle est perçue comme étant autre chose. Il y a quelque chose derrière, nécessairement. Racisme, islamophobie, comme on dit, ou volonté d'assimiler, enfin, il y a autre chose. Voilà, donc, bon, voilà, je vous laisse réfléchir à ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. On écoute maintenant Juliette Rennes.
Merci de l'invitation. Moi aussi, je vais reprendre le fil de certains éléments qui viennent d'être dits, et notamment, on retrouvera l'argument de la pente glissante. Alors, le titre, évidemment, que j'ai proposé est beaucoup trop large. C'est plus une piste de réflexion. Femmes, étrangers, couples de même sexe, les arguments contre l'égalité des droits de la fin du 19e au début du 21e siècle. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire des mobilisations et contre-mobilisations autour du féminisme, du droit des résidents étrangers et des couples de même sexe sur ce siècle entier, mais donner quelques éléments de réflexion par rapport au titre qu'on nous a proposé pour cette table ronde, qui est « L'éternel retour, point d'interrogation ». Et contrairement à ce que a présenté Julien sur la laïcité, là où il y a une évolution très visible de l'usage argumentatif de ce thème de la laïcité, je vais m'intéresser à un thème, l'égalité des droits, sur lequel l'inertie est plutôt ce qui est frappant. Je crois que vous avez eu quelques éléments hier avec l'intervention, j'ai pas pu y assister, mais de Francine Muel-Dreyfus sur les arguments contre les droits des femmes. Alors, je voudrais vous donner pour commencer trois citations qui sont de périodes assez éloignées les unes des autres. Donc, 18 avril 1918, dans un journal féministe. Donc je vous lis. Lorsqu'un homme veut nous expliquer pour quelles raisons il faut interdire aux femmes une carrière, généralement la carrière exercée par cet homme, il apporte à l'appui de ses dires deux espèces d'arguments, l'argument pratique et l'argument sentimental. Nous les retrouvons toujours immuables à la base de l'opposition qui se dresse quand il s'agit de nous ouvrir une carrière où nos aînés n'étaient pas, mais où nos filles seront. Ces arguments devaient fatalement être réédités à propos de l'accès des femmes au métier d'ingénieur, et c'est sans surprise que nous les avons relevés dans un article récemment paru. Deuxième citation, Saïd Bouamama, dans un texte pour la lutte pour les droits politiques aux résidents étrangers en 2000. L'ensemble du XIXe siècle, écrit Saïd Bouamama, est marqué par des luttes des femmes pour l'obtention du droit de vote. Les arguments avancés pour s'opposer à cette revendication sont significatifs. En premier lieu, on invoquait leur prétendue incapacité à s'occuper de la chose publique. Aujourd'hui, cet argument est avancé contre les étrangers sous une forme à peine modifiée. Ils ne seraient pas préparés aux règles démocratiques. Il reste enfin l'argument suprême. Les femmes ne voulaient pas du droit de vote, disait-on. Cet argument a été mis en avant contre le droit de vote des étrangers. Dernière citation, Didier Héribon, plaidant pour le mariage des couples de même sexe en 2004. Donc on n'est pas encore au moment du débat pour le mariage pour tous, mais au moment du mariage de Bègle, organisé par Noël Mamère entre deux hommes, donc en infraction à la loi de l'époque. Et Didier Rébon écrit « Toute la rhétorique, tous les arguments mobilisés jadis et naguère contre le droit de vote des femmes et auparavant contre leur droit au travail ou leur autonomie juridique, contre le divorce, puis contre l'avortement, la contraception, ou pour ce qui concerne les homosexuels contre le PACS, ont été convoqués contre le mariage des couples de même sexe en des termes inchangés. Ces schèmes idéologiques ne sont jamais ruinés ou discrédités quand ce contre quoi on les invoquait est devenu réalité. Inusables, ils sont inlassablement ressortis des tiroirs où ils avaient été provisoirement remisés et réactivés pour faire barrage à des revendications nouvelles. » La question que je voudrais poser, les questions que je voudrais poser sont de plusieurs ordres. Sur quoi repose ce sentiment qu'ont les militants d'une répétition des arguments contre l'égalité des droits, donc des arguments non seulement à l'intérieur d'une controverse donnée. Dans la première citation, la journaliste féministe remarque que les arguments qu'on oppose à l'accès des femmes au métier d'ingénieur sont les mêmes que ceux qu'on a opposés 30 ans auparavant contre l'accès des femmes à la médecine et au barreau. Mais comment se fait-il que les arguments semblent également se répéter entre des controverses qui impliquent des populations différentes, les femmes, les étrangers, les minorités sexuelles, des acteurs et des générations d'acteurs différentes qui argumentent dans des contextes différents. Comment se fait-il qu'il y ait cette espèce d'asynchronie, d'anachronisme entre des discours qui semblent les mêmes et des contextes sociaux qui ont énormément évolué. Alors voilà, donc je vais essayer de traiter cette question. Sur quoi est fondé ce sentiment de répétition ? Est-ce que la répétition est symétriquement partagée par les deux camps ? Est-ce que les arguments égalitaristes se répètent autant ou de façon comparable à ceux des adversaires de l'égalité des droits ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément d'explication à ces éventuelles répétitions ? Et quel est peut-être l'usage politique et militant qui peut être fait de cette connaissance ou de cette mise en exergue des effets de retour ou de répétition entre des causes différentes. Alors évidemment, je vais poser ces questions sans y répondre de façon exhaustive, mais je voudrais donner quelques éléments. Alors, premier élément, qu'est-ce qu'on appelle argument ? Juste quand on dit que les arguments se répètent, alors juste un petit détour rhétorique. Un argument est une raison donnée pour accréditer une proposition controversée. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on parle d'argument, on a un point de vue non pas normatif. On ne dit pas qu'il y a des bons et des mauvais arguments. Toute raison donnée pour accréditer une proposition controversée est un argument. Et les images aussi peuvent être des arguments. J'avais envoyé à Hélène deux images qui sont... il faudrait mettre la taille. C'est pas grave. Tu peux peut-être. Voilà, merci. Un argument qui est de l'époque, qui est de 1900 et qui est un argument visuel assez typique des arguments hostiles à l'accès des femmes au barreau. Donc on voit qu'il s'agit d'une carte postale de 1900 où c'est une comédienne qui joue de façon ironique avec un sourire évidemment qui indique qu'il s'agit d'une plaisanterie burlesque, une avocate au moment où les femmes accèdent au barreau après une très très longue controverse. Il y a la reprise dans le titre de la carte postale d'un slogan féministe de l'époque, « La femme est émancipée », et une réfutation par l'image. Qu'est-ce qu'une femme émancipée qui ne peut pas se passer, qui ne peut pas s'abstraire de sa vocation maternelle le temps de sa plaidoirie. Et il y a donc là une représentation visuelle d'un argument qu'on pourrait dire de cadrage, c'est-à-dire on définit les femmes par leur maternité et on montre que cette fonction, cette essence est incompatible avec la réclamation que les féministes de l'époque portent. Le deuxième exemple, là aussi, qui est identifié par les féministes de l'époque comme typique des arguments de leur adversaire, c'est un type d'argument par les conséquences négatives. Si les femmes travaillent, il y aura une inversion des rôles. Donc l'égalité est relativement impensable à l'époque. Donc le travail à l'extérieur, il s'agit ici de femmes suffragettes qui partent voter ou travailler. Il y a donc une représentation visuelle des effets négatifs de cette revendication. Je ne sais pas si vous voyez les visages renfrognés des deux époux qui se retrouvent accablés de tâches domestiques. Évidemment, là, il y a une rhétorique visuelle, c'est-à-dire que si le mari avait l'air plutôt content de ses activités domestiques, le sens de l'image aurait été différent. Alors, deux exemples voilà, de structure, argument par les effets négatifs, argument par l'essence, qui sont très courants à l'époque et pour les acteurs et les actrices féministes, hommes et femmes de l'époque, donnent l'impression étrange, hein, ce mot revient plusieurs fois, d'une étrange familiarité, c'est-à-dire ces arguments se répètent au point qu'ils sont prévisibles. J'ai beaucoup d'exemples de débats où les féministes, députés, hommes, intervenant pour le droit des femmes à l'Assemblée, s'objectent à eux-mêmes à l'avance, parce qu'ils les connaissent par cœur, tous les arguments que vont leur objecter leurs adversaires pour s'opposer à l'accès des femmes à tel ou tel droit. Cette connaissance permet aussi aux acteurs et aux militants en général de développer une compétence, y compris pour catégoriser les arguments. Tout à l'heure, Julien a parlé de l'argument de la pente glissante, qui est un argument travaillé par les rhétoriciens, les linguistes depuis assez longtemps. Le fait que si on adopte une mesure, on l'appelle aussi argument de l'effet boule de neige ou du doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que cette mesure va produire un enchaînement de conséquences négatives de plus en plus catastrophiques. Et cet argument est catégorisé déjà par les militantes et les militants féministes de la fin du 19e comme argument de mal en pis. Donc ils appellent ça l'argument de mal en pis et ils le repèrent en tout cas de façon systématique dans les textes et dans les prises de parole de leurs adversaires. Alors, dans quelle mesure il y a une typicité également des arguments pour l'égalité je vous lis un dernier extrait qui est lié à ce débat sur l'accès des femmes aux professions. Ici, il s'agit des années 30 et c'est un député favorable à l'accès des femmes à la magistrature qui est à l'époque en débat en 1930 mais qui sera obtenu qu'en 1946. Et Albert Bisson, qui est lui un défenseur du droit des femmes, s'amuse quand même à prévoir les arguments de son propre camp, donc il en connaît aussi la typicité. Donc ils diront, c'est mes alliés, ils diront que les femmes étant déjà électrices aux tribunaux de commerce doivent, comme tout électeur qui a fait son stage, devenir éligible aux fonctions qu'il leur appartient de conférer. Donc un argument de la règle de justice, tous les électeurs doivent pouvoir être juges, les femmes sont électeurs aux tribunaux, elles doivent pouvoir être juges. Ils montreront que les femmes éligibles déjà aux chambres de commerce, au conseil des prud'hommes, donc un argument par le précédent, il y a déjà des précédents, on doit traiter analogue une nouvelle demande. Ils assureront que les qualités d'esprit et de tempérament qui font le bon juge ne sont point question de sexe, mais d'individu. Donc voilà, argument par les valeurs méritocratiques de l'époque. Et ils demanderont à leurs adversaires si par hasard ils ne redouteraient pas de constater quelques supériorités chez les femmes. Là aussi, argument typique des défenseurs de l'égalité, qu'on appelle ad personam, c'est-à-dire on ne s'en prend pas au contenu de l'argument adverse, mais on soupçonne chez lui des motivations cachées, un peu comme on fait, nous, les sociologues, quand on met en rapport des positions et des intérêts inavouables. Et donc là, ce serait, par exemple, la peur de la concurrence qui fait que des hommes s'opposeraient à la mixité des professions libérales. Et enfin, dernier argument, ils feront enfin ressortir que l'on ne doit pas priver une institution comme la nôtre de la faculté de se recruter le plus largement possible et d'attirer l'élite féminine comme masculine. Donc là aussi, argument utilitariste, par les effets non pas malheureux mais heureux, c'est-à-dire il faut que la libre compétition des talents inclue toutes les permette à tous les meilleurs faire valoir, de contribuer à l'intérêt commun. Et alors évidemment, cette symétrie, ce caractère typique n'est pas totalement symétrique. Là, on est dans les années 30, donc les arguments féministes ont déjà à l'époque autour de l'accès des femmes aux professions une quarantaine d'années, mais ils ont une ancienneté bien moindre que les arguments conservateurs qui plaident pour le statu quo. Étant donné que les arguments pour le statu quo sont ajustés depuis des centaines d'années à la structure objective des rapports sociaux de sexe, des différences de droit entre les femmes et les hommes, et que les conservateurs, lorsqu'ils plaident l'idée que à chaque sexe son mérite plutôt que le mérite doit valoir pour tous, cet argument produit un effet d'évidence, puisqu'il y a tout un système politique et juridique qui fait que les femmes et les hommes n'ont pas accès aux mêmes fonctions, aux mêmes droits, et que dire à chaque sexe son mérite semble confirmer un ordre naturel, naturalisé, et c'est au contraire à ceux qui réclament l'égalité essayer de, en s'appuyant sur des règles logiques, faire valoir par des exemples, par des démonstrations, que le bien fondé de leurs revendications. Je passe un peu là-dessus. Alors, troisième, donc je pourrais revenir sur la question de la symétrie. Ou pas. Et troisième question, comment expliquer ou comment se produit ce caractère répétitif et limité des arguments? Alors, première remarque, dans toute controverse, il y a une raréfaction des arguments, c'est-à-dire que comme dans toute controverse durable, chaque personne a tendance à puiser dans un stock qui a été constitué, stabilisé d'arguments. Et c'est une façon aussi de marquer son appartenance à un camp idéologique politique, dont on reproduit les arguments, et dans les controverses durables, on argumente non pas tant pour convaincre, auquel cas on s'adapterait à chaque fois, on essaierait d'ajuster ses armes à l'interlocuteur, mais aussi pour marquer son appartenance à un camp politique dont les arguments fonctionnent comme des formes de porte-drapeau. Et évidemment, dans toute controverse binaire comme le type de controverse sur les questions d'égalité des droits, faut-il ou non autoriser les femmes à accéder à tel droit, les couples de même sexe à se marier, les étrangers à accéder au droit de vote, il y a une binarité qui produit aussi, qui restreint le nombre d'arguments possibles. Mais il y a des formes de contraintes qui sont et qui produisent ce caractère limité et répétitif des arguments qui sont plus spécifiques aux enjeux d'égalité. Et notamment, c'est le fait qu'on est dans un régime où l'égalité est érigée en principe contraignant. La loi doit être la même pour tous, sans distinction d'eux, etc. Et ce cadre juridique est aussi un cadre politique. L'égalité est érigée en valeur dans un certain nombre d'institutions, sont mises en œuvre dans une idéologie républicaine qui se décline de différentes façons, oblige les adversaires de l'égalité à contourner une opposition frontale à la réclamation d'égalité, c'est-à-dire que ça devient c'est très peu dissible, et même déjà au début du XXe siècle, de dire je suis contre l'accès des femmes au barreau parce que les femmes sont inférieures aux hommes. Et c'est aussi différent, ou parce que je veux défendre mes intérêts et qu'il y ait moins de concurrence au barreau. On a vu aussi avec le mariage pour tous à quel point l'argument de l'égalité était retourné par les adversaires des droits des couples de même sexe, l'égalité des enfants par exemple, ou le fait même que la formule manif pour tous reprenne ce pour tous est aussi un des marqueurs des contraintes qui pèsent sur ce qui est dissible et non dissible dans l'espace public autour des questions d'égalité. Et cette importance des arguments par les conséquences négatives est aussi un des effets du fait qu'il est difficilement dissible de s'en prendre aux valeurs que défendent les égalitaristes. C'est-à-dire il est très difficilement dissible de dire on est contre le mariage pour tous ou le droit des étrangers résidents parce qu'on est contre l'égalité et on est pour une société d'ordre, une société inégalitaire où les intérêts des privilégiés sont préservés. Donc on ne peut pas critiquer la valeur invoquée, mais on va critiquer ses effets, c'est-à-dire votre intention est bonne en principe, mais elle a telle et telle série d'effets négatifs. Et c'est une des raisons pour lesquelles le théoricien Albert Hirschman, qui a fait un livre « Deux siècles de rhétorique réactionnaire », a essentiellement repéré comme typique des arguments réactionnaires, des arguments par les effets, donc les effets pervers, les effets, la mise en péril, donc une conquête met en péril une autre conquête antérieure, l'innocuité des effets nuls, telle mesure ne sert à rien parce qu'elle n'aura pas d'effet, etc. Cette contrainte rend intéressant aussi, par exemple en sociologie, de travailler sur différents sites de discours et de voir que le discours conservateur qui peut s'exprimer dans des espaces publics, dans les manifestations de rue avec des slogans ou à l'Assemblée nationale lorsqu'il s'agit d'objecter juridiquement et politiquement des revendications comme le mariage pour tous, peut être très différent de ce qui peut se dire en coulisses dans des espaces où la contrainte qui pèse sur ce qui est dissible et non dissible est beaucoup moins forte. On sait par exemple que Noël Mamère, lorsqu'il a organisé ce mariage des couples de même sexe, les arguments publics étaient procéduraux, sur le fait, le caractère juridiquement non valide de ce mariage, alors qu'il a reçu 4000 lettres d'insultes l'a déployé de façon beaucoup moins contrôlée, parce que c'était des lettres protégées par l'anonymat le plus souvent, des comparaisons, des analogies entre l'homosexualité, l'animalité et toutes sortes de stratégies pour rabaisser et pour rétablir la hiérarchie déchue entre hétérosexualité et homosexualité. Le quatrième et dernier point, donc pour conclure, quels sont les usages politiques qui peuvent être faits de cette répétition ou de cette connaissance de la façon dont des arguments hostiles à l'égalité des droits peuvent se répéter d'une cause à l'autre. On voit bien que là aussi, il y a une asymétrie entre les défenseurs de l'égalité des droits et leurs adversaires, puisque dans notre société où l'égalité est érigée en valeur publique, même si donc il y a des contestations qui peuvent être faites de multiples façons de ce principe, les défenseurs de l'égalité des droits ont pour eux, d'une certaine façon, des précédents. Et c'est une raison pour laquelle, dans les argumentaires que j'ai pu étudier sur ces trois causes, le droit des femmes avant la Seconde Guerre mondiale, les militants pour les droits des étrangers à partir des années 80 et des couples de même sexe à partir des années 90, l'histoire est une arme militante puisqu'elle permet des mises en équivalence des deux côtés, c'est-à-dire que les défenseurs des droits des étrangers se mettent en équivalence, leurs revendications avec celles de luttes désormais légitimes, les luttes féministes pour l'égalité des droits, comme les défenseurs des homosexuels peuvent se mettre en, équivalence leurs revendications avec ces mêmes luttes pour les femmes ou aux États-Unis pour les droits civils des Noirs, par exemple, et mettre en équivalence leurs adversaires avec les perdants de l'histoire, c'est-à-dire vos arguments sont les mêmes que ceux qui jadis s'opposaient aux femmes aux juifs aussi. Il y a une autre analogie qui remonte à plus loin sur l'intégration des juifs à la fin du 18e. Évidemment des héritiers dont leurs adversaires ne reconnaissent pas l'héritage et tout le travail argumentatif de ceux qui s'opposent à l'égalité est au contraire de faire des distinguos, de dire mais le mariage pour tous n'a rien à voir avec le Pax, les revendications des étrangers n'ont rien à voir avec ceux des femmes, et donc d'essayer toujours de défaire ces précédents que leurs adversaires sont en train de construire. Et donc l'histoire peut être une arme argumentative, mais une fragilité aussi de cet argument, c'est de transformer cette rhétorique des précédents en une lecture un peu téléologique, naturaliste des luttes d'égalité, avec l'idée que les égalitaristes sont du côté de l'histoire, puisqu'il y a eu le droit de vote des femmes, il y a eu l'intégration des juifs, l'abolition des ordres sous la Révolution française, l'intégration des juifs, puis l'intégration des femmes, puis des homosexuels, et maintenant d'une autre minorité dont la situation serait politisée. Et faire ce récit-là à l'avantage de renvoyer les adversaires du côté des perdants de l'histoire et de les menacer d'être demain la risée de ceux qui verront avec le recul historique ces anciens débats, mais a aussi la faiblesse de pouvoir donner une vision naturalisée de l'histoire qui minimise l'effet des luttes sur ces changements, puisqu'on sait bien que dire que il y a eu dans un certain nombre les juifs, puis les femmes, puis les homosexuels qui ont obtenu des droits est une façon de styliser le récit historique, puisque de mettre de côté toutes les régressions, les contre-offensives qu'il y a eu, et c'est le cas, c'est très flagrant sur le droit des étrangers, hein, avec toute l'histoire des offensives juridiques contre les naturalisés et les étrangers résidents tout au long du XXe siècle. Et donc il faut à la fois connaître cette histoire sans minimiser la fragilité de ces rapports de force qui permettent d'ériger l'égalité moteur de l'évolution politique. Voilà.
Bien, voilà. Bah, écoutez, on a maintenant une heure pour pouvoir discuter de ces questions. Je vais vous passer directement le micro. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, je voulais tous les trois vous inviter à un exercice complémentaire, en quelque sorte, sur la question de l'enfant. Parce qu'il me semble que C'est peut-être un effet de tropisme personnel, mais que la question des droits de l'enfant est mobilisée, alors, de toute évidence, dans l'histoire du mariage pour tous, hein, puisque droit de l'enfant contre droit à l'enfant, ça a été aussi un élément extrêmement prégnant de l'argumentation réactionnaire. Hein, l'idée qu'on ne pouvait pas tout, et que c'était contre un des droits universels reconnus depuis, je crois, les années 70, et puis ensuite la Convention des droits de l'enfant, c'est les années 80, je crois. Enfin, bon. Donc l'idée que là, il y a un droit positif, universaliste, etc., qui a été reconnu, mais qui pose des problèmes spécifiques, puisque pour que les enfants aient pleinement leurs droits, il faut en quelque sorte limiter les droits des adultes pour que les droits des enfants puissent prospérer. Mais il me semble que ça peut-être, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas complètement réfléchi à la question, mais jouer aussi sur les autres questions, enfin, sur la question de l'école privée, par exemple. Là, il y avait, il me semble, hein, dans les débats publics sur la question de l'école privée, de longue date, le fait que l'école publique pouvait exposer l'enfant à une forme de dénaturalisation, de soumission à des profs marxistes ou je ne sais quoi, enfin, qui pouvaient décérébrer, sortir de l'enfant de ses racines, le mettre à tous les vents en quelque sorte, et par là même le mettre potentiellement dans la souffrance, y compris peut-être la question des surdiplômés, etc. Enfin, il me semble qu'il y a des topics un peu là-dessus. Et sur la question de la laïcité, mais vue sous l'autre versant, hein, de la défense active de l'enseignement catholique, eh bien le fait qu'il faut en quelque sorte protéger les enfants contre les familles, cette fois, l'argument se retourne en quelque sorte pour qu'il ait accès à l'universel, ces jeunes filles qui arborent des choses en toute inconscience. Il faut les soumettre à la loi républicaine, bon, fin quelcroute, quoi, enfin, les soumettre à la loi républicaine pour les émanciper. Et l'émancipation est forcément pour demain, cette fois-ci. Donc lui, pour le coup, est plutôt un adversaire des droits de l'enfant. Hein, mais du coup, on voit que la question des droits de l'enfant, peut-être, n'est pas toujours mobilisée de la même manière par les réactionnaires. Voilà, donc je n'ai pas mis tout ça en ordre, mais je vous propose d'essayer de le faire collectivement.
Oui. Moi, j'avais une question plus pour Monsieur Lenoir concernant cette idée que la défense de la famille, c'est la défense des intérêts, en gros, de la droite comme classe dominante, si j'ai bien compris. Et je me demandais s'il y a quand même, par rapport à une remarque qu'ont fait les Pinson Charlot avant-hier soir, où il disait que finalement, dans beaucoup de familles, il y avait pas mal de pratiques qui permettaient d'assurer la transmission patrimoniale, quand bien même le schéma de la famille traditionnelle n'était pas tellement respecté, en jouant de l'adoption simple, des divorces, etc. Enfin, voilà. Et par ailleurs, il y a quand même toute une partie des classes dominantes économiques qui me semblent n'avoir pas grand-chose à faire de l'Église catholique et de ça. Et du coup, quel est un peu le lien que peuvent... D'abord, est-ce que finalement les attaques sur la famille, pour vous, apparaissent comme vraiment menacées, cette transmission patrimoniale, ou est-ce qu'on peut avancer que ces classes sont suffisamment mobilisées pour, de toute façon, arriver à s'y retrouver? Et à partir de là, est-ce que c'est pas plus quelque chose de l'ordre plus du symbolique? Et pour toute la partie des classes dominantes qui est relativement éloignée du catholicisme et même quelquefois extrêmement attaquée de manière très violente, si on pense à des gens comme Berger ou Frédéric Mitterrand qui sont l'objet de propos particulièrement haineux sur Internet ou autre. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, donc par rapport à ces franges-là, quel est leur rapport finalement est-ce qu'il y aurait une espèce d'alliance tacite, c'est-à-dire qu'ils laisseraient l'Église catholique monter au front parce que ça les arrangerait bien, ou est-ce que, quel est un peu la structure d'intérêt et l'alliance d'intérêt au sein de cette classe dominante un petit peu plus variée et de ces droites qui sont un petit peu multiples, me semble-t-il.
Moi, j'ai une question pour Julien Bauger. Vous avez dit à un moment, sur l'épisode du voile, je crois, dans 89, hein, et la réaction de François Baroin, vous l'aviez analysé en disant, enfin, que lui disait que c'était un effet de torpiller la gauche. Enfin, j'avais noté cette formule. Alors, mais c'était, si j'ai bien compris, dans un sens, de récupérer des voix d'électeurs ou de s'adresser à des électeurs en vue de récupérer leur voix. Est-ce que finalement, un autre effet de ça, c'est que ça n'a pas torpillé la gauche aussi, dans le sens de la division de la gauche, parce que ce qu'on a pu ensuite observer, c'est aussi quand même... une division sur cette question au sein de la gauche, justement au nom de la laïcité. Voilà.
Et moi, j'avais une question qui recoupait la question qui vient d'être posée là pour Rémi sur comment travailler cette distinction entre. Tu as parlé des propriétés de ceux qui défendent leur. Intérêt par manifestation interposée et ceux qui manifestent et qui sont pas forcément qui rentrent pas forcément dans le cadre que tu as défini de défense de la transmission patrimoniale à travers un certain type de structure familiale traditionnelle. Est-ce que tu as des éléments sur l'articulation de ces motivations différentes?
Peut-être d'abord répondre sur les questions concernant plus particulièrement la famille, parce que la question de Bertrand s'adressait à nous trois, et je ne veux pas monopoliser du tout le micro. Oui, les questions que vous me posez, c'est des questions que je me pose, c'est évidemment vite dit, de dire la droite, la gauche, les classes dominantes... comme si c'était des notions qui renvoyaient à des ensembles homogènes. Évidemment, c'est plus compliqué. Moi, ce que je pense, ce que j'ai essayé de faire à propos donc de cette intervention-là, c'était d'essayer de différencier les intérêts symboliques et les intérêts matériels, quoi. Sachant que les intérêts matériels ne peuvent s'exprimer, c'est de l'ordre de l'inavouable, comme tu disais, c'est de l'ordre de l'indicible, de l'illicite. On ne peut pas manifester pour défendre, son patrimoine en tant que tel. Il y a des gens qui ont défilé, pas tellement pour défendre le patrimoine, si tant est d'ailleurs qu'ils étaient conscients de le faire. Cela dit, il suffisait quand même de voir les gens qui manifestaient à Paris pour voir que c'était quand même des gens qui venaient pas des quartiers populaires. Je dis pas que c'était des gens qui avaient un patrimoine considérable, bien entendu, qui faisaient partie de ces classes moyennes patrimoniales. Mais je pense qu'il y en avait quelques-uns par les habillements. C'est assez difficile de savoir. Je crois pas qu'il y ait eu de sondage à ce propos. En distinguant intérêt, disons, matériel et intérêt symbolique, alors les intérêts symboliques, je crois que l'Église catholique défend aussi son existence sociale. Qui a des fondements matériels, mais en insistant beaucoup sur les intérêts symboliques, quoi. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est certainement plus compliqué que ce que je dis, mais je pense que les intérêts à défendre la famille sont pas les mêmes, selon les. Mais comment dire? Au nom de la famille, tous ceux qui ont intérêt, soit matériel, soit symbolique, peuvent s'y retrouver. Voilà. sans s'exclure, encore que on a vu que l'Église catholique, à un moment, n'a plus, enfin, s'est retirée, hein, en tout cas de certaines formes de manifestations. Je pense à un discours d'un archevêque ou d'un évêque, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 jours, enfin, qu'on pouvait lire dans Le Monde, dont on pouvait lire des extraits dans Le Monde. Il disait attention, la famille c'est bien, mais il ne faut pas se faire manipuler. Bon, c'est trop bien pour que ça soit manipulable, enfin oui, quelque chose comme ça. Alors ce que je pense, c'est que bon, bah, l'Église catholique, comme tous ceux, comme les psychanalystes, comme tous ceux qui ont un intérêt à ce que la famille existe, enfin dans nos représentations, enfin une certaine forme de famille existe dans nos représentations, ont participé, hein, de près ou de loin, à ce type de manifestation. Mais je pense que ce qui fait la force, l'écho de ces manifestations, c'est quand même, c'est ça que je voulais rappeler. Je dis pas que j'ai pas les moyens de le mesurer, mais je voulais rappeler que ce qui est à transmettre d'une génération à une autre et qui se fait par le biais de la famille est aujourd'hui plus important que jamais. Voilà. Hein. Et ça, je crois que j'ai qu'évoqué, vous voyez, certains indicateurs, mais il me semble que ces indicateurs sont déjà là, sont suffisants, vous voyez, pour pouvoir s'en convaincre. Alors de là à maintenir le modèle traditionnel de la famille pour la transmission du patrimoine, loin de moi cette idée-là, parce que parmi les principaux réformateurs, disons, du modèle familial depuis les années 50, hein, ça s'est fait à partir grosso modo du planning familial, etc. Bon, c'était des femmes, la plus souvent originaires de la bourgeoisie, parisienne, qui plus est. Donc je pense qu'au sein même, si vous voulez, de la bourgeoisie, il y a des divisions, hein, des visions, cela dit, c'est pas parce qu'on change les structures apparentes de la famille que l'on change ce qui en fait, à mon avis, l'assise essentielle, c'est, en tout cas dans cette classe, sachant que, par exemple, dans d'autres classes, bon, celles dont on disait qu'elles étaient déshéritées, vous voyez, où il n'y a pas d'héritage, enfin de gros héritages à transmettre, ou que des héritages négatifs, parce qu'il faudrait aussi tenir compte de ça. Je pense donc aux familles ouvrières. Il y a des familles ouvrières, mais la logique de fonctionnement de ces familles est tout à fait, oui, le fondement matériel, si vous voulez, de la famille ouvrière n'a évidemment rien à voir avec celle de la famille bourgeoise. C'est pour ça d'ailleurs que moi je lutte, vous voyez, pour qu'on puisse adjectiver toujours la famille, dire que de quelle famille parlez-vous. À tout le moins, on peut peut-être, au moins, ce qu'on faisait très banalement, très ordinairement au XIXe siècle, on parlait famille bourgeoise, famille aristocratique, famille paysanne, famille ouvrière, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment de l'ordre de l'indicible. Alors pourquoi ? Parce que je pense que maintenant le discours sur la famille, c'est un discours de quasi-professionnels d'un milieu qui s'est complètement autonomisé par rapport, au milieu des luttes sociales, et qui ne voit dans la famille que des agencements symboliques, enfin qui, à mes yeux, manifestent la coupure entre cet univers et la réalité sociale. Je finis sur la transmission du patrimoine peut se faire par selon des structures familiales très très différentes. Sauf, et c'est pour ça que peut-être qu'il y a eu une telle résistance, sauf quand la famille serait composée, le ménage, comme on dit statistiquement, serait composé d'homosexuels sans possibilité de transmettre. Alors là, je vous signale, comme ça, pour aller vite, qu'il y a un très bel ouvrage d'un Américain, d'un spécialiste de la littérature de Balzac, hein, de la littérature de la première moitié du 19e, qui s'appelle Michael Lousset, qui a été traduit d'ailleurs en français, je crois que ça s'appelle Les infortunes de la famille. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est paru chez Fayard, hein, Lousset, où à partir donc de la lecture de plusieurs romans, notamment de Cousin Ponce et de La Cousine Bête, Balzac enfin montre à quel point dans la bourgeoisie commerçante, la bourgeoisie de petites affaires, l'homosexualité est insupportable. Vous voyez, elle est insupportable. Pourquoi ? Enfin, ça c'est la thèse donc de Michael Lousset, c'est parce que le patrimoine. Dans une famille, vous voyez, homosexuelle ou dans un ménage homosexuel, il n'y a pas lieu de le transmettre. Si ce n'est, alors là, il s'agit d'une collection de tableaux, etc. Et à qui va être transmis la collection de tableaux ? Non pas à un neveu, une nièce, etc., mais à un musée. Alors là, vraiment, c'est une catastrophe familiale parce que, les biens ne reviennent pas, vous voyez, dans la famille. Alors l'homosexualité, c'était pas tellement un problème, vous voyez, c'est un problème à la fois moral, inévitablement, c'est aussi un problème moral, mais c'est aussi un problème matériel. Alors, on pourrait dire, mais maintenant qu'on reconnaît, on n'a pas encore reconnu, et c'est peut-être pas par hasard, vous voyez, il y a une sorte de filiation artificielle des couples homosexuels, ou par des biais, vous voyez, très complexes, je crois pas qu'on l'ait reconnu encore maintenant. Enfin, en tout cas, c'est le projet qui devait en décider a été remis au calendrier grec, si j'ai bien compris. Le rapport sur les modifications de la famille, le rapport dit d'Irène Théry, n'en parle pas. Elle parle de la filiation, mais elle ne parle pas, je crois, de ces problèmes de procréation médicale assistée, de gestation pour autrui, enfin, de choses comme ça. Je crois que c'est vraiment hors champ. Hein. Petit à petit, vous voyez, les structures familiales changent. Le divorce existe. Alors je vous signale comme ça qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites par des spécialistes comme quoi les ruptures familiales, les divorces par exemple, avaient des conséquences, disons, beaucoup moindres. Plus on montait dans la hiérarchie sociale, plus les conséquences existentielles, vous voyez, étaient moindres, d'où la proportion beaucoup plus forte du divorce par consentement mutuel que du divorce pour faute, hein, dans les catégories supérieures. Enfin, bon. Donc je crois que la transmission du patrimoine peut très bien s'accommoder, hein, de structures familiales diverses, etc. Ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de doute à avoir là-dessus. Alors, le problème qui se pose du coup, c'est pourquoi certains défendent toujours le modèle de la famille traditionnelle, hein, le modèle patriarcal, on devrait dire, ou en tout cas le modèle patrimonial. Mais il me semble que toute famille défend, enfin toute famille bourgeoise, enfin qui a du patrimoine, pour dire les choses simplement, défend un type de famille patrimoniale. Alors pourquoi ceux qu'on entend dans la rue sont plutôt ceux qui, ou la droite politicienne, si je puis dire, défend plutôt un modèle, traditionnel, je pense que c'est là où on retrouve l'Église catholique, vous voyez, qui, elle, ne peut pas, pour des raisons dogmatiques, dogmatiques au bon sens du terme, ne peut pas accepter au nom de la nature, alors biologique ou divine, enfin, il y a un point de rencontre aujourd'hui assez extraordinaire entre la biologie et la théologie, pour justifier la nature, pardon, je suis trop lent. Et beaucoup de gens s'y reconnaissent, vous voyez, dans ce modèle, et c'est certainement pas les catégories les plus élevées des classes, des classes qui ont du patrimoine à transmettre, qui se reconnaissent dans ces manifestants et dans cette, dans ces clichés, dans ces stéréotypes, enfin dans ces mots d'ordre, dans ces, vous voyez, bon, manif, je sais plus, enfin, j'ai oublié, mais enfin bon. Voilà. oui, dans ces topiques, dans ces clichés. Alors, juste, bon, et puis je passe là un mot à propos de la question de Bertrand, qui est un peu compliquée pour moi. Non, mais je pensais, parce que je, dans mon texte écrit, j'avais mis droit de succession et droit à la succession. Hein. Le droit à la succession. Enfin, en jouant, vous voyez, de cette opposition, un peu comme du droit à l'enfant et du droit de l'enfant. Bon, mais je crois que. Enfin, je crois que. Comment dire ? Au niveau du discours, tout est possible. Et il me semble, en entendant mes deux collègues, je me disais, mais au fond, ces discours sont à la lutte symbolique qui consiste à faire des mots, des sortes d'armes, d'armes argumentatives, comme vous dites. Bon, il y a des mots symboles. Bon, j'ai l'impression que la droite a pas mal gagné parce qu'elle s'est réappropriée, vous voyez, des mots. Qui sont quasiment un capital, comme on dit, hein, capital politique, des mots comme égalité, vous voyez, c'est quand même formidable. Enfin, d'avoir laïcité, c'est quand même formidable aussi, comme liberté. Hein. C'est quand même extraordinaire que les gens de droite parlent, vous voyez, de liberté, enfin, que ce soit eux qui soient les défenseurs de la liberté. Alors, tout dépend évidemment de ce qu'on met sous ce terme-là, mais au niveau d'une sorte de bataille, comment dire, de mots pour les mots, j'ai l'impression qu'à cet égard, la droite a bien joué. Quoi. Voilà, hein, c'est... Alors, ce qu'il faut voir aussi, et là, je vais vous dire le fond de ma pensée à ce propos, c'est qu'une des un des ressorts de la manifestation, m'a-t-il semblé, pour le mariage pour tous, c'était l'État. Enfin, c'était l'État nous pique nos enfants. Voilà. Hein, c'est un thème qu'on retrouve alors beaucoup mieux dit et beaucoup, enfin on dirait là j'ai très mal dit aussi, mais c'est beaucoup plus explicite, si je puis dire, vous voyez, dans les manifestations ou dans les discours au début du XXe siècle, hein, où c'était effectivement, l'État était perçu, vous voyez, comme un voleur d'enfants, quoi. C'était des expressions, hein, que je crois qu'on a encore utilisées ces derniers temps. Bon, alors là encore, vous voyez, l'État, ça a été une sorte de propriété de gauche, hein, quand la droite s'est vue dépossédée, enfin, pour une part, de son pouvoir sur l'État. La droite, quand c'était les légitimistes qui étaient au pouvoir, quand c'était les royalistes qui étaient au pouvoir, ne critiquait pas l'État, hein, sauf en matière économique, où là, c'était la bourgeoisie qui avait ses intérêts spécifiques, au moins dans le domaine économique. Mais quand l'Église était un organe, un quasi-organe, un quasi-intellectuel organique, disons, de l'État, ne serait-ce que parce que, en fait, elle contrôlait l'État par l'intermédiaire des aristocrates catholiques, enfin, ou des bourgeois qui l'ont, bon, qui le géraient. Enfin, je m'exprime mal, mais enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Bon, l'Église catholique n'était pas anti-étatique et la droite n'était pas anti-étatique. Elle est devenue anti-étatique dès le moment où l'État est devenu un État républicain. Hein, elle est devenue anti-étatique. Avec cette république, enfin, laïque, oui, et parlementaire, enfin. Donc, comment dire, il faut bien voir que, j'avais noté ça comme ça, quoi, que les mots qui sont utilisés, enfin, les catégories que nous utilisons, comme la notion de famille, comme la notion de laïcité, c'est un enjeu de lutte dans le champ politique, notamment, c'est vrai, parce que la politique, c'est souvent une question de mots, en tout cas dans l'espace public, et c'est aussi un enjeu. Hein, les catégories sont un enjeu et une arme de lutte dans cet espace, disons, qu'on appelle l'espace politique ou l'espace public. Hein. lorsqu'on veut redéfinir les notions, hein, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très intéressant à propos de la laïcité. Ben, on essaie de sortir de ce jeu, vous voyez, en créant une commission d'experts, hein, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas vraiment intégrés dans le jeu politique, en tout cas pas immédiatement intégrés dans le jeu politique, parlementaires principalement, hein. On crée des commissions et là ils font un rapport et tralala. Et il me semble que un des enjeux de la lutte politique, c'est d'avoir la légitimité pour soi, c'est-à-dire d'avoir les bons mots, hein, alors le mot égalité, le mot laïcité, le mot manif pour tous. Alors ça, c'est vrai que c'est formidable que la droite a récupéré, vous voyez, elle récupère pas simplement Jaurès, enfin, quel est le Jaurès qu'elle récupère ? C'est le nom de Jaurès, hein, c'est tout, évidemment. Mais par exemple, Manif pour tous, touche pas à ma famille aussi. Bref, à quel point, vous voyez, il faut avoir la légitimité avec soi dans la vie politique, c'est-à-dire à faire en sorte que l'adversaire ait la charge de la preuve, en quelque sorte. Il faut qu'il prouve. Et les mots ont une charge, hein, une charge émotive, sont des preuves presque en eux-mêmes. Et c'est très difficile de récupérer ensuite. Il y a le problème des quotas pour entrer dans les établissements de pouvoir, etc. Et il y a des gens, enfin, vous voyez, qui râlent, enfin, qui contestent, vous voyez, l'idée des quotas, parce que ça met en cause l'égalité des enfants devant les concours. Hein. Vous voyez, par exemple, que des enfants puissent entrer dans les cagnes d'Henri IV à Paris, y a des manifestations, pas des manifestants en grand nombre, bien entendu, mais des manifestations au sein du lycée pour protester, parce que c'est autant de places qui ne sont pas occupées par des enfants, disons, de la bourgeoisie, qui, si ces places n'avaient pas été occupées, c'est eux qui auraient pris la place, oui, auraient occupé cette place-là. Et dans beaucoup de domaines, enfin, on voit ce genre de choses. Et ça, ça se fait au niveau de l'égalité, du mérite, etc. Bon, voilà, donc, moi, c'était ça les réactions que j'avais à l'égard de mes collègues et des questions qui ont été posées.
Merci. Peut-être Juliette là-dessus. Oui,
j'ai pas de réponse sur droit de l'enfant, mais c'est vrai que on a vu effectivement que l'enfant était un argument et un champ de bataille des deux côtés pendant les débats sur le mariage pour tous, parce que c'était aussi le droit des enfants homosexuels à être à être reconnus comme des enfants comme les autres, et le droit et ce qui me un des éléments de réflexion qui me semble intéressant, c'est aussi l'usage des sciences sociales dans ce débat-là, puisqu'il est beaucoup encore question de, si on reformule en termes d'arguments sur les en termes de conséquences négatives ou pas pour les enfants d'avoir des parents de même sexe, et on a vu comment au moment du Pax les sciences sociales et la psychanalyse notamment avaient été beaucoup mobilisées plutôt dans un sens conservateur pour pointer des conséquences négatives. Et il me semble que là, il y a eu quand même en 15 ans une évolution de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'y compris chez les psychanalystes, un réalisme, en tout cas une attitude moins normative sur cette question-là, et aussi beaucoup de travaux de sciences sociales. Alors pas en France, je sais qu'il y en a qui s'y attellent, mais d'autres pays sur le fait que les enfants de parents de même sexe évoluent de façon non particulièrement différente des autres. Et en tout cas, cet argument de l'enfant qui évidemment ne parle pas, qui est pas participant du débat, était aussi, ça me frappe très présent dans les débats que j'ai étudiés sur le travail, l'accès des femmes aux professions diplômées, puisque c'était un argument central aussi des conservateurs de pointer les effets négatifs sur les enfants, d'avoir des mères qui travaillent. Et il y avait notamment entre 1900 et 1940, une romancière catholique, Colette Hiver, qui a été vraiment spécialisée dans écrire des romans vraiment connus de multiples éditions, montrant les séries d'effets négatifs que provoquait sur les enfants le fait de grandir avec une mère ambitieuse qui travaille, qui accorde de l'importance à sa carrière. Donc elle a fait un roman sur les avocates, sur les administratrices dans les bureaux, sur les professeurs agrégés, sur les femmes médecins. Donc à chaque fois, il y avait un mariage de la femme, et elle refusait de cesser de travailler, et arrivait tout un tas de malheurs familiaux, y compris le décès de l'enfant parce qu'elle n'avait pas assez allaité longtemps, etc. Et donc et son mari l'a quittée parce qu'il préférait une femme plus traditionnelle. Et donc voilà, c'est simplement pour dire que l'enjeu, enfin les effets sur la famille de l'égalité entre adultes finalement se retrouver aussi dans ce débat-là.
Ouais. Alors pour la question que tu as posée sur torpiller la gauche, effectivement ils ne pensent pas tout de suite aux élections. L'enjeu, c'est bien d'appauvrir la gauche d'un de ses mots d'ordre, enfin lui enlever un de ses mots d'ordre, et aussi de profiter du contexte qui est particulier, puisqu'on est au lendemain des élections de 2002, que la gauche n'a pas été au second tour, etc. Donc, bon. Et l'enjeu aussi, enfin, en parlant du voile, systématiquement, c'est effectivement de diviser la gauche. Parce que c'est la question qui divise, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit rapidement, c'est que à gauche, on a essayé pendant une dizaine d'années de dépolitiser cette question en la confiant soit à la justice, le Conseil d'État, la justice administrative, soit à des instances administratives ou d'experts, donc, type le Conseil d'intégration, ou encore à un fonctionnaire spécialisé, la médiatrice dans les affaires de voile dans les écoles, quelqu'un qui était spécialisé et qui parlait au nom du gouvernement, mais non pas politiquement. Hein. C'était, voilà, on essayait d'appliquer le droit, trouver des compromis. Bon, voilà. Donc, par contre, dès que, effectivement, la question du voile est politisée, là, ça divise énormément. Et en 2003-2004, effectivement, on l'a vu, parce que alors, si vous vous intéressez à ce qui sort... Il y a toute une historiographie, que moi je dis officielle, de l'adoption de la loi en 2003-2004, qui finalement ne revient que sur le côté consensuel. C'est-à-dire tout le monde était d'accord. Or, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement très peu de mobilisation contre la loi, mais parce que les gens, en fait, les organisations, les associations antiracistes, les organisations antiracistes, de défense des droits de l'homme, les syndicats enseignants, étaient plus dans une posture d'abstention ou plutôt de malaise. Hein, ça divisait, on préférait ne pas trop en parler, on ne savait pas est-ce qu'il était légitime d'aller se mobiliser aux côtés ou à côté de ceux que l'on pense être, qu'on désigne comme étant des islamistes, des intégristes, qui sont comment dire, étiquetés comme tels dans l'espace public. Est-ce qu'on peut aller défendre le voile? Alors même si évidemment on ne comptait pas défendre le voile, mais défendre le droit à l'école, etc. Enfin, il y a des questions qui sont tellement compliquées qu'effectivement, c'est une très bonne manière de diviser. Quoi. Bon. Sur la question des droits des enfants, alors c'est assez intéressant parce que effectivement à droite, on voit typiquement quand l'école est laïcisée et devient obligatoire, alors à droite, hein, schématiquement, on insiste effectivement sur les droits des adultes, sur les enfants, hein, et la famille relève de l'ordre naturel. Hein, et là, on pourrait dire que à travers la question du voile, on entend au contraire soumettre les enfants à l'État, donc qui est plutôt une problématique républicaine, de gauche. Mais on pourrait dire que l'enjeu, on entre dans l'ordre de la nature nationale. Enfin, il s'agit de naturaliser, au sens de faire des naturels, comme disait Sayad, quoi, ses enfants. Hein. Voilà, alors, la question a été présente d'emblée, mais de manière un peu compliqué, un peu contrarié, puisque dès 89, finalement, ce qui, pour beaucoup, fait qu'il y a une affaire de voile, c'est la loi d'orientation scolaire de juillet 89, si je me souviens bien, qui reconnaît une liberté d'expression aux élèves. Donc on donne davantage de droits, hein, aux enfants. 14 juillet 89, merci. Et donc, ce qu'en pensent certains enseignants, par exemple dans le collège de Creil où il y a la première affaire, hein, eh bien, c'est qu'on a donné des droits aux enfants contre l'ordre scolaire, contre l'école, quoi, d'une certaine manière. Voilà, bon. Alors donc, Jospin va défendre, Lionel Jospin, le ministre, va défendre l'accueil des enfants, notamment au nom de ces droits, hein, de ces droits des enfants. Alors, à l'inverse, l'autre position, c'est de dire le voile est une contrainte. Les parents contraignent les filles, les jeunes filles, à le porter. Alors ça, c'est un discours qui s'impose en 89 parce qu'on a affaire à des collégiennes. Il y a de très rares élèves en foulard en 1989 et ce sont des collégiennes. Au cours des années 90, la population se diversifie, donc on a de plus en plus des lycéennes. Et lors du deuxième grand moment où on parle du voile, c'est-à-dire en 1994, quand le ministre Bayrou essaie d'interdire le port du voile à l'école, bon, ça ne marche pas tout à fait, mais il essaye, donc il y a des exclusions. Et donc là, on exclut des lycéennes, et ces lycéennes se défendent parfois. Donc on se rend compte que c'est compliqué cette affaire de « on va utiliser les droits des enfants pour les libérer de leurs parents ». Puisque parfois les enfants qui sont plutôt des adolescentes ou des jeunes femmes affirment choisir cette situation. Bon, du coup, on pourrait dire que la question du droit des enfants s'est plutôt transformée en droit des filles ou des femmes. Bon, mais je n'avais pas vraiment plus étudié que ça sous cet angle. Voilà, bon. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci. Non, j'aurais voulu faire deux remarques. Sur le voile, d'abord, la remarque, j'ai l'impression qu'on fait comme si le problème du voile se posait à l'école de manière en dehors de toute réflexion sociale, alors qu'il semble bien que ce qu'on va arriver à faire, c'est avoir la création d'écoles privées musulmanes, comme il est arrivé pour les écoles catholiques et pour les écoles juives, où les gens qui veulent vivre leur religion de manière plus forte, et plus intégriste, si vous voulez, peuvent avoir un lieu tout en restant à l'école, sous contrat ou hors contrat, mais avec des pratiques. Or, on voit ce qui est arrivé pour les musulmans, c'est qu'on a là, pour l'essentiel, des classes pauvres, et qu'ils n'avaient pas d'autre école possible que l'école publique. Et c'est donc... Ils étaient doublement stigmatisés, à la fois comme musulmans et comme pauvres. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à l'Église catholique sur les manifs pour tous. Là. Parce que ce qui me trouble, c'est qu'en Angleterre, bon, certes, c'est l'Église anglicane, mais la légalisation du mariage de même sexe, la PMA, la GMA, ça s'est fait sans aucun problème. Enfin, aucun problème, en tous les cas, personne dans la rue. De la même manière en Espagne. La légalisation du mariage, il n'y a pas eu de manif dans la rue en Espagne, et quand même le poids de l'Église catholique en Espagne est au moins aussi important qu'en France. Et d'ailleurs, j'avais posé la question à propos au Pinson-Sarlot, quand ils étaient venus, parce qu'ils nous montrent cette grande bourgeoisie, et il n'y avait aucune référence à l'Église ou à la pratique. Voilà. Et elle disait, non, mais pour eux, c'est secondaire, c'est pas l'essentiel. Donc, je me demande si vous ne surestimez pas. Il y a peut-être j'ai plutôt l'impression que la manif pour tous, elle trouvait dans l'Église catholique un allié, mais elle n'y croyait pas vraiment, quoi. D'ailleurs, à la limite, comment elle s'appelait, Frigide Barjot, c'était la caricature, quoi. On la voyait difficilement... partir après avec l'abbé Beauvais à Saint-Nicolas de Clairvonnet.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, je me suis mal exprimé parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire, en distinguant intérêt matériel et intérêt symbolique, pour moi, ceux qui ont manifesté, indéniablement, je crois que c'était... On ne peut pas le nier, même si on n'a pas les informations objectives. Hein. C'était évidemment des cathos. Hein. Ça, c'est même l'organisation. On voyait les jeunes, ils étaient habillés. Enfin, c'était des scouts. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas la peine Et puis même, ça se voit, enfin, il y a un habitus catholique qui est quand même assez... bon, ben, ça l'a dit, c'est plus compliqué, parce que aussi... dans l'église, mais c'est l'église, je dirais, l'église militante, enfin l'église d'institution. Mais il y a beaucoup de catholiques qui ne se reconnaissent pas dans ces gens-là, hein, bien entendu. Mais alors, ce qui me permet de lier les deux intérêts matériels, hein, ceux qui ont des intérêts matériels et ceux qui ont des intérêts symboliques, les intérêts symboliques, comment dire, devenant, enfin cachant, enfin masquant les intérêts matériels de ceux qui ne manifestent pas, qui de toute façon n'ont pas besoin de manifester pour conserver leurs avantages, pour aller vite. Hein, bon, ou, de toute façon, leur argent, il y aura, si c'est leur patrimoine, on sait très bien qu'ils peuvent le déplacer. Hein, bon. Oui, ce que je voulais dire, ça, c'est que l'Église catholique a... on m'a posé la question à propos de l'Espagne. Ça, j'avoue que je ne sais pas comment répondre, parce que c'est vrai que le poids de l'Église en Espagne est sans doute beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé encore qu'en France. Là, j'ai du mal à répondre. Pour l'Angleterre, très franchement, l'Église anglicane, sous ce rapport-là, et n'oublie pas que les prêtres sont mariés dans cette Église, enfin, le rapport, vous voyez, à la sexualité, le rapport au mariage, n'est pas du tout le même, parce que le dogme, enfin, parce que le dogme, oui, je crois, parce que le dogme n'est pas le même, vous voyez. Donc, je crois que... enfin, voilà, c'était la réponse que je voulais faire à propos de ce que tu dis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez. Ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaie, parce que, en fait, c'était une... parce que, bon, j'ai déjà écrit un peu là-dessus, mais il me semble que je me suis pas mal trompé. Et donc, j'essaie de voir dans quelle mesure, vous voyez, les intérêts proprement symboliques, qui peuvent voiler... des intérêts matériels ne sont pas défendus. Il y a une division du travail. Bon, voilà, hein, voilà. Il y a une sorte de division du travail, d'intérêts bien compris, entre guillemets, harmonisés, en tout cas à un certain moment, qui font que, après tout, la droite moderniste, si vous voulez, la droite. La droite Giscard, peut se retrouver, vous voyez, dans des transformations de la famille. Mais aussi dans, et moi la discussion ici m'a été très utile, dans les clichés obligés de ce que c'est que défendre la famille dans l'espace politique. Il y a un répertoire de gauche, un répertoire de droite. Alors évidemment, chacun joue, et ça on a compris, il y a des armes, des machins. Mais la seule famille véritablement... publiquement défendable dans la rue, etc., c'est la famille, disons, traditionnelle, avec des contours peut-être un petit peu élargis, disons, aujourd'hui. Mais on ne voit pas, sauf à tomber dans l'autre camp, le camp des féministes, donc, encore une fois, le camp de la gauche, alors défendre, vous voyez, les nouvelles familles, etc. Donc voilà, l'idée de répertoire est pas mal, parce que ça montre qu'il peut y avoir des survivances, il peut y avoir des... On peut se cacher, la modernité peut se cacher sous le traditionnel, et même le traditionnel peut peut-être se cacher sous la modernité aussi. Hein. Ça, je renvoie à l'histoire du patrimoine. Hein. Le patrimoine peut être défendu, peut-être, sous des formes extrêmement modernes, et enfin, je sais pas, les œuvres d'avant-garde, enfin bref, j'insiste pas là-dessus. Hein.
Juste, non, c'est une remarque complémentaire. C'est intéressant, cette différence entre la France et l'Espagne autour de la controverse sur le mariage des couples de même sexe. Il y a une thèse de David Paternotte qui est là-dessus, sur la comparaison France, Belgique et Espagne. Non, simplement, il y a une thèse de quelqu'un qui s'est posé la question que vous posez. Il y a plusieurs éléments de réponse, mais un des éléments dont je me souviens, c'est aussi l'histoire post-franquiste et le fait que... C'est ce que vous aviez en tête.
L'Église, elle a tellement été...
Exactement, voilà. Que, en gros, avec le franc, exactement. C'était ça, et le fait qu'il y a eu un consensus un peu obligé sur le fait qu'il fallait quelques causes modernes, dont celle-ci, pour se dissocier du passé franquiste.
Les filles arrivent voilées. Bon, et alors, est-ce qu'il est sous contrat? Je ne sais pas.
Oui, il l'est maintenant. Alors, vous avez tout à fait raison sur une des conséquences de la loi. Ça a été d'accélérer le mouvement de constitution d'école, enfin, d'établissements privés musulmans. Ça, c'est très juste. Et avec un effet d'enfermement qui est peut-être plus compliqué que celui qu'on postulait en 89, en se fantasmant sur des écoles coraniques. Enfin, parce qu'à partir du moment où on est sous contrat, on ne choisit plus les profs, il y a un tas de choses qui font que c'est plus compliqué. Enfin, on doit piocher. Mais bon, cela dit, il y a quelque chose qui me semble intéressant par rapport à ce qui s'est passé avec la création d'une école libre à la suite de la création de l'école laïque, c'est que à l'époque, il y avait des écoles libres qui perpétuaient une tradition scolaire localement. Il y avait des contextes locaux qui faisaient que il y avait une école laïque, mais aussi une école libre qui avait une histoire plus ancienne localement, en fonction des contextes. Bon. Alors que là, on a des établissements qui ne sont constitués que pour les musulmans, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il y a assez peu de chances que d'autres populations y aillent. Bon, par ailleurs, ces établissements sont un instrument de reproduction culturelle à différents égards d'une, ce qu'on pourrait appeler une petite bourgeoisie musulmane. Alors, je ne sais pas, il faudrait creuser. Dans le sens où, à la fois, on autorise, on autorise dans ce cadre la pratique religieuse. Et ce qui est sous-entendu par beaucoup de parents par là, c'est le bon comportement, avec en même temps l'idée que ce bon comportement, donc être moralement bien se tenir, et donc être tenu dans ce cadre scolaire-là, c'est aussi une manière d'avoir un bon comportement scolaire. Voilà, il y a les deux enjeux qui se tiennent, et pour certaines familles qui vont inscrire leurs enfants, ça peut être parce que la fille veut absolument se voiler ou on veut absolument que la fille le soit, bon. Et du coup c'est un bon moyen, mais il y a aussi le fait qu'on considère que quand on habite certains quartiers populaires à Lille ou en région parisienne, ce type d'établissement constitue une manière d'alternative. On va considérer qu'on va être mieux encadré. On fuit en fait les fractions les plus dominées des classes populaires. Voilà, pour le dire brutalement. Voilà, exactement.
Moi, je voulais aussi revenir sur l'intervention sur la laïcité, où je trouve que c'est un point. C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle nous montre aussi que ça me fait penser au fait au bouquin de Lévy sur la gauche, les Noirs et les Arabes, où il montre un petit peu les prises de position de toutes les organisations de gauche à cette occasion. Et donc, en effet, il montre que toutes ont été un peu fissurées, divisées, etc. Alors, on peut en conclure que c'est un missile qui a été envoyé à la gauche pour la diviser, etc. Mais on peut aussi voir que les catégories gauche-droite, est-ce qu'elles sont pertinentes et qu'est-ce qu'elles nous empêchent de voir à propos de ces questions? Est-ce que des pôles, par exemple, du style un pôle plus interventionniste et un pôle plus attaché au respect des libertés individuelles, etc., qu'on pouvait voir se dessiner un peu dans certaines organisations, est-ce que ça ne nous permet pas de reposer la question de l'ordre sur un autre prisme qui n'est pas celui de gauche-droite, mais que je trouve peut-être plus intéressant à certains égards, puisque dans le côté gauche-droite, il y a un peu le côté... pas gentil et méchant, mais comme on est globalement de gauche, c'est aussi une manière de ne pas se remettre en question par rapport à cette question d'ordre, etc. Mais c'est juste une...
Je reprends la parole parce que je me faisais une réflexion presque inverse. Je ne suis pas contre cette hypothèse et en même temps, je me disais quand même... est-ce qu'il n'y a pas des effets propres au champ politique, quoi, de positionnement politique? Parce que quand on voit par exemple la position de Bayrou, elle est très modérée, sur la question. Alors, il renaturalise d'une autre manière en disant il faut le mariage et autre chose qu'on n'appellerait pas le mariage pour les couples homosexuels, mais avec les mêmes droits. Donc, voilà, c'est un espèce d'arrangement avec le droit, etc., mais qui le porte quand même nettement à gauche, si on veut, enfin, d'une certaine manière, par rapport à l'UMP. Et puis après, on voit le jeu entre le FN et l'UMP, enfin, en tout cas, Marine Le Pen, en tout cas, pas le FN, mais qui s'inspire des expériences nordiques de l'extrême droite pour frayer un répertoire un peu, entre guillemets, islamophobe, mais moderne, adapté aux mœurs actuelles, etc. Et justement, l'islam menaçant la modernisation des mœurs, etc. Bon. Et alors que l'UMP, du coup, reprend une posture vieille France, pensant récupérer une partie de l'électorat FN, enfin, et laissant le champ libre à Bayrou à sa gauche pour... Bon, ça a été un peu confus, mais enfin, vous avez compris l'hypothèse que je défends, c'est-à-dire un effet propre au champ politique lui-même, quoi, c'est-à-dire de concurrence pour des postures qui ont bien à voir avec une espèce de division des rôles et des postures qui peuvent peut-être aller au-delà des convictions de certains membres de l'UMP, mais qui se disent « faut retrouver notre électorat, etc., il est très à droite, à tort ou à raison », mais enfin, cette croyance, en tout cas, est insuffisante pour qu'ils agissent en marquant sur la droite, en quelque sorte, les postures qui sont les leurs relativement à celles qu'ils avaient eues au cours des années antérieures.
Oui, dernière, mais je ne sais pas si j'arriverai bien à la formuler, mais on a beaucoup parlé aussi là pour le coup des réactions au mariage pour tous, en tout cas sous l'angle des manifs pour tous, et présentés un peu comme les dominants catholiques. Mais en même temps, il y en a eu d'autres aussi, des réactions qui ont été à un moment médiatisées. Et bon, je n'ai pas beaucoup étudié la question, etc., mais notamment toutes les rumeurs sur la baissée du genre, avec l'idée que des parents allaient retirer leurs enfants. Il y a eu un jour, je ne sais pas, un jour de grève, grève des parents, je ne sais plus comment ça avait été intitulé. Là.
Ça pour la théorie du genre.
Oui, la théorie du genre. Et il me semble là que, parce que ça rejoint un peu, enfin, différemment, mais voilà, il y a aussi finalement dans les familles populaires une vision sexuée du monde ou une division, enfin, qui repose aussi sur une division sexuée du monde, hein, ou du travail qui est organisée, structurée, qui organise et structure l'existence. Donc d'une part, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi des résistances de ce côté-là, mais qui se mobilisent avec d'autres modes d'expression. Alors ça, c'était un premier aspect de la question, parce qu'il y avait plusieurs choses. Pardon, c'est pour ça que je vais être un peu confuse. Mais comment, alors on voit bien qu'ils ne s'expriment pas de la même manière, pas au même moment, pas dans les mêmes espaces. Voilà, il y a quand même cet aspect conservateur qui n'est pas uniquement chez les dominants catholiques, pour le dire un peu rapidement. Alors, quels sont les enjeux dans ce cas-là, hein? Alors, symbolique, on a évoqué les enjeux économiques, mais il y a aussi les enjeux symboliques, hein, j'entends bien. Et puis, dans cette question, peut-être une sous-question sur la question des familles d'origine musulmane, des familles musulmanes, pardon. Alors, ce qui rejoint peut-être les travaux sur le genre, du coup, enfin, sur le voile, c'est aussi... parce qu'il me semble qu'on a entendu beaucoup les familles plutôt populaires musulmanes dans les médias à ce moment-là, sur cette l'idée de retirer les enfants de l'école. Que dire aussi des fractions nationalistes qui montent parmi les mouvements LGBT, qui inquiètent, hein, d'ailleurs, une partie du mouvement. C'est-à-dire justement une partie du mouvement qui est anti-musulmane. Et voilà. Donc, peut-être.
Oui, bon. Moi, il y a deux questions. Enfin, je répondrai à deux questions. Un peu la question qui a été posée sur la distinction entre droite et gauche. Enfin. C'est vrai que ce sont des catégories de classement telles qu'elles sont instituées depuis, depuis un siècle, hein, grosso modo, pour aller vite. Et cela dit, analysant le discours public, dans l'espace, et en l'occurrence dans l'espace politique principalement, moi, il me semble que c'est pas une aberration épistémologique de reprendre ces catégories de droite et de gauche à propos d'un enjeu qui est bien circonscrit dans cet espace et qui oppose, en tout cas à mes yeux, assez bien ces catégories, pour aller vite. Même s'il est vrai qu'on peut trouver des gens de droite, Madame Bachelot, on peut trouver toujours des noms. Et inversement, à gauche, des gens au contraire très proches des positions dites de droite. Cela dit, ce ne sont pas des catégories d'analyse, ce sont des catégories de classement indigène qu'il faut analyser, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se cache derrière, c'est-à-dire quels sont les intérêts sociaux qui sont défendus, les groupes sociaux qui sont défendus sous ces catégories qui se donnent à voir telles quelles. Je pense qu'à propos de la famille, on le voit assez bien, aussi, on le voit d'autant mieux que s'agissant de défendre la famille, la gauche la défend, en tout cas défend une certaine conception de la famille qui se définit moins en termes de structure qu'en termes de conditions d'existence, quelle que soit la structure de la famille en tant que telle. Et ça, il me semble que, en tout cas à l'origine, alors ça ne veut pas dire qu'après la droite n'a pas récupéré. Je pense par exemple à propos de l'allocation de parents isolés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça ne vous dit rien, j'en parle pas. C'est une très belle allocation qui a été créée en 1976, donc sous Giscard d'Estaing, par un conseiller à la Cour des comptes qui s'appelle Bertrand Fagonard, qui a institué cette allocation qui vient en aide à ce qu'on appelait jusqu'alors les mères célibataires, pour dire la chose simplement. Et cette allocation, elle a été votée pour une part par la droite, pas toute la droite, et elle a été évidemment votée par la gauche pour venir... Alors, si une partie de la droite s'est ralliée, c'est parce qu'elle était perçue, cette allocation, comme étant une sorte de récompense à des femmes qui n'ont pas avorté. C'était, vous voyez, la contrepartie de la loi sur l'avortement. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des problématiques obligées, comme ça. Il y a des comptabilités politiques un peu spéciales. Enfin, ça, c'est le propre même de l'univers politique que d'opérer de cette manière-là. Il y a un répertoire spécifique, il va y avoir des comptabilités spécifiques. Je ne sais pas, c'est un univers que je ne connais vraiment pas plus que ça. Mais en tout cas, d'un point de vue proprement épistémologique, ce n'est pas absurde. Cela dit, la remarque que vous faites, et moi, me semble très intéressant, parce que ce qui faisait la spécificité, me semble-t-il, de la gauche, j'ai travaillé un peu sur les politiques de protection sociale, c'est justement la protection sociale. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, dans les débats qu'on voit, Hollande et compagnie, c'est que à travers quoi la gauche s'est pour une part constituée, la gauche d'après la Libération, mais même avant, celle du Front populaire, c'était la protection sociale. Plus que l'école encore, ou au moins autant que l'école. J'entends pas l'école libre, l'école laïque, l'école d'État. Je pense que ce que vous dites, est-ce que ces catégories... Moi, je pensais que c'était un certain rapport à l'État. Pas du tout, quand on regarde l'histoire du rapport à l'État des différentes... des différentes droites ou des différentes gauches, on voit très bien que le rapport à l'État est fonction de l'intérêt qu'on peut y avoir à avoir à le contrôler. Quand on ne le contrôle pas, on le sape. Quand on le contrôle, on ne le sape pas, pour aller vite. Donc, Moi, il me semble que s'il y avait une définition quasi essentialiste de la gauche, bon, ce contre quoi on est tous, parce que, bon, comme vous disiez, on est tous de gauche, on est tous, en tant que sociologue, on est tous constructivistes, bon, etc. Bon, s'il y avait vraiment quelque chose qui permet de... Et peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre de choses pour s'y retrouver dans tout cet espace brouillé qu'est la politique aujourd'hui. Eh bien, c'est justement la protection sociale. En tout cas, c'est ce par quoi la gauche s'est faite. Et c'est peut-être en défaisant la protection sociale qu'elle se défera pour laisser place peut-être à d'autres... un autre système de classement. Et ça, celui que vous dites, enfin que vous suggérez, me semble pas du tout absurde. Le rapport à l'État, mais alors il faudra savoir qui contrôle aujourd'hui l'État. Bon, et en fonction de qui contrôle l'État, les agents du champ se positionneront par rapport à est-ce qu'il faut un État de tel type ou pas de tel type. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas concernant les objets dont il a été question aujourd'hui, il me semble que le recours à la catégorie droite-gauche n'est pas absurde, quoi. Voilà. Alors elle n'est pas, comme toutes les classifications, elle n'est pas parfaite, loin de là, mais je pense qu'elle est pertinente.
Peut-être sur ta question sur le fait que les offensives contre la théorie du genre n'étaient pas le monopole des catholiques et notamment à l'école. Donc évidemment, toutes les études de genre depuis 40 ans montrent bien que l'attachement aux hiérarchies de genre et à la différence de genre est transversal à toutes les classes sociales, même si elle prend des formes variables au sein de chaque classe et que le genre travaille différemment à l'intérieur de chaque classe sociale. Mais ce qui est peut-être remarquable dans ce qui s'est passé à l'école, c'est que c'est aussi quand même le signe d'une... On peut le voir aussi positivement, au sens où c'est tout à fait inédit, et c'est aussi le fruit de travaux en sciences sociales depuis 40 ans, d'avoir montré la façon dont la socialisation à l'école... est très importante. On passe une grande partie de notre vie d'enfant et d'adolescent à l'école, et que la façon dont se reproduisent les rapports hiérarchiques entre les sexes est très liée à ce qui se passe à l'école, aux livres qu'on lit et à ce qu'on nous enseigne. Et c'est le fruit, donc, le fait que depuis 2008-2009, il y a eu, par le biais de lobbies divers, et je dis lobbies évidemment d'activisme sans caractère péjoratif, mais de féminisme institutionnel dans des institutions liées au ministère de l'Éducation, qui fait que la dimension sexiste des manuels scolaires, de la façon dont on enseignait l'histoire, la biologie, ait été confrontée à ce qui s'est fait en sciences sociales depuis 40 ans sur cette question, et qu'il y ait eu finalement une importation dans l'enseignement secondaire de travaux qui mettent en question le caractère naturel de la hiérarchie du genre. On comprend que ce soit les réactions sont compréhensibles du fait qu'il y a un vrai enjeu de socialisation des enfants à l'école, donc il me semble que c'est aussi intéressant de ce point de vue là.
Alors la question je reviens sur la question du clivage entre gauche et droite. Tout le problème justement de cette question du voile, c'est que on pourrait dire, c'est pas imposer un principe de division de ce type définitivement. Il y a même, c'est un peu ce que j'ai essayé de décrire, c'est l'optique de neutralisation, c'est-à-dire que c'est au-delà du clivage entre... C'est construit comme étant au-delà du clivage entre la droite et la gauche, mais on peut penser que le principe de vision qui s'est imposé est en fait un principe plutôt de droite, quoi. Enfin, c'est le principe de vision nationale du monde social, pas un principe de vision sociale, qui était plus le cas en 89. C'est-à-dire en 89, une des préoccupations, c'est de se dire mais que vont-elles devenir, quoi, socialement ? Alors, en 2003-2004, c'est aussi revenu, mais ça ne s'est pas imposé. Et une bonne partie des gens qui sont à gauche et qui occupent des positions de pouvoir dans la gauche se sont ralliés à « il faut défendre la laïcité », et donc à ce point de vue-là qui n'est pas social. Donc, ce qui est lié, donc, qu'est-ce qui participe à expliquer les prises de position, c'est compliqué, mais on peut observer typiquement, enfin, on peut observer quelques schèmes qui indiquent bien qu'il n'y a pas un clivage qui s'est imposé durablement, un clivage politique qui s'est imposé durablement. On peut trouver des prises de position sur la base de dispositions primaires religieuses, des gens qui ont une socialisation religieuse. Bayrou, par exemple, va être dans ce cas-là, mais Jospin Rocard, en 89, était dans cette optique-là. Ils appelaient à la tolérance, et bon, ça renvoyait à leur propre histoire. Bon. Oui, voilà. Oui. Et en 94... Bayrou, par contre, bizarrement, est celui qui fait adopter une circulaire qui vise à interdire le port du foulard. Mais là, ça répond à un positionnement dans le champ politique. C'est-à-dire qu'il est attaqué depuis un an par la droite, les gens qui sont à sa droite, pour agir sur cette question, dans une optique de politique de l'immigration, essentiellement. Et donc, il se positionne comme ça. Et, bon, et une fois qu'il est sorti du gouvernement, il regrette. Truc classique. Mais on a les prises de position, un autre principe, ça peut être les prises de position des juristes, qui là encore ne répondent pas au clivage entre gauche et droite, mais le Conseil d'État prend position au cours des années 90 sur la base d'un autre héritage, d'un autre répertoire d'action, qui est l'histoire propre de la jurisprudence du Conseil d'État, etc. Donc à partir du moment où il n'y a pas un clivage, on peut dire qu'il s'est imposé, on a des luttes permanentes pour décider qu'est-ce qu'il a, le problème urgent du moment. Voilà. Bon, je sais pas, il faudrait creuser davantage.
Ouais. Tatiana. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci à vos questions. Donc on finit donc un petit peu en avance. Il y a un petit changement de programme, donc cette table ronde. On reprend aussi plus tôt. Pour la conférence donc de Patrick Lehung, on reprend à 17h15 dans cette salle. Oui, dans cette salle, exactement. Merci à vous.